Cascodeur Podcast, épisode 237. Tu as fait ta demande de hissage ? Enregistré le 14 août 2020.
Pour aider financièrement les cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs. Et merci à vous. Bienvenue au Cascodeur épisode 237. C'est un épisode de nouvelles, même si c'est l'été et que c'est plutôt calme post-Covid, ou plutôt dans le Covid mais déconfiné. Et je suis avec Arnaud.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va Arnaud ?
Bah ça va, comme tout le monde, c'est l'été, mais effectivement, ça n'a pas l'air de l'été, ça, c'est bizarre. C'est un été bizarre, on va dire.
C'est ça.
Été studieux, on va dire, c'est ça.
Écoute, moi j'ai fait été normal quasi, parce que je suis allé en vacances avec des amis, je suis revenu là une semaine juste chez moi, et je repars encore une semaine. Donc ouais. Pour moi, ça faisait quasi normal en fait, mais d'accord. Effectivement, il y en a plein qui restent chez eux, etc. Du coup, ça fait des vacances bizarres.
Oui, c'est ça. Moi, pas de vacances. Donc, depuis le mois de mars, enfermé avec toute la famille, ça fait long. Ça fait très long.
Ouais. je te vois sur la croix attachée dehors, tu sais.
Sauvez-moi, sauvez-moi, aidez-moi. Non, mais je les aime beaucoup. Mais bon, vivement qu'ils retournent à l'école quand même.
C'est ça. Alors, écoute, on va se lancer parce que finalement, il n'y a pas tant de nouvelles Java, mais il y a pas mal de nouvelles dans l'informatique, hein, de manière générale. Ça s'est bien accumulé. Et donc on va commencer par les langages et un langage Java, alors pas grand chose, mais dans Java 11, je sais pas si vous utilisez déjà des fonctionnalités qui ne sont que dans Java 11. Et là Adam Bean expliquait une API qui permet d'avoir le nom du fichier quand on a un chemin en entier. Alors vous savez, c'est slash tmp slash another, ça c'est si vous êtes sous Unix, et puis sinon c'est c:\anti/slash tmp anti slash another, et puis le nom du fichier. Et du coup il y a une méthode statique sur path qui est path of, et on passe le nom entier du chemin, et puis après on lui dit donne-moi le nom du fichier, et du coup on a uniquement la partie du fichier. Par exemple, dans son exemple, c'est duke.html. Et donc ça, c'est les trucs qu'on faisait à la main. Alors on disait si c'est slash, si c'est anti-slash, etc. Et bon, ça couvre rarement les anti-slash d'escaping et toutes les saloperies comme ça. Donc là, au moins, c'est géré pour vous par le JDK, donc c'est plutôt pas mal. Tu utilises toi ou t'es bloqué à Java?
Non, Java 8, du coup, hein. ça va dépendre. Tout ce qui est Jenkins, on est toujours sur du Java 8, donc effectivement à ce niveau-là, on oublie pour l'instant. Par contre, moi je contribue sur pas mal d'applications internes chez CloudBees, où là on est en Java 11, donc là effectivement à ce niveau-là, ouais, j'utilise les nouvelles fonctionnalités, que ce soit sur les passes et autres. Donc, mais c'est vrai que c'est toujours les trucs, c'est les petites méthodes qui sont rajoutées à droite à gauche et que tu connais pas parce que tu les trouves pas naturellement, tu vas pas les, voilà, donc tu tombes pas sur un blog post comme ça qui dit ah tiens, il y a celle-là qui a été rajoutée là, tu peux faire ça plus, ah bah oui, bah après t'as IntelliJ qui t'aide pas mal des fois, tu sais, dans les enfin et les autres éditeurs j'imagine, mais sur les converts de version de Java et qui te préconise d'utiliser telles API plutôt que telles autres, etc. Quand tu montes de version.
C'est au niveau des API ou juste au niveau des structures ?
Il y a les structures, mais j'ai déjà vu des trucs. Alors sur les deprecated, par exemple, je sais qu'il fait les redirections si les méthodes sont similaires. Il te dit tiens, ça c'est déprécié, tu peux aller là. Après, te préconiser des nouveaux, je sais pas trop s'il y a des nouvelles API là comme le file name. Je suis pas sûr que ça soit capable de détecter.
Tu vois, Clippy, je sens name. Que tu en chies à trouver le nom du fichier. Tu veux pas utiliser le JDK.
Ce serait trop génial. Ce serait bon.
Voilà, et ben écoutez, voilà, Java, ça y est. Et puis maintenant, on va passer à d'autres langages.
Le mois prochain, il y aura certainement plus avec une nouvelle release de Java. Donc,
ouais.
En fonction de quoi
on enregistre. On sent que Guillaume est ouvert sur l'univers. Il nous a mis deux news au niveau de l'univers Golang. Alors déjà, Golang 1.15 est sorti avec pas mal de petites améliorations, notamment une meilleure allocation des petits objets quand on a beaucoup de cœur, donc du travail en parallèle, j'imagine, qu'il y a des choses qui faisaient de manière synchro ou séquentielle avant. De la déprécation. indexation. Donc, si vous utilisez macOS 1.12, enfin avant 1.12, ou si vous vouliez générer des applications 32 bits sous macOS, eh ben c'est fini. Sachant que les dernières versions de macOS ne font plus tourner, je crois, hein, les 32 bits, ça y est, hein, depuis l'avant-dernière, je crois.
Ouais, l'avant-dernière, oui.
Moi, je me suis mis à jour en début d'été, tiens, à la dernière, c'est-à-dire avec un an de retard.
Ah, ça va, tu prends ton temps.
Il y a trois versions, je m'étais pris une grosse claque, et du coup, j'ai un petit peu abandonné ça. Ouais, en fait, j'avais une mauvaise expérience en mettant à jour, genre la semaine de la release, il y a quelques versions avec des choses qui marchaient plus. Du coup, maintenant, je suis extrêmement conservateur et c'est plutôt du genre, bon, allez, il y a une nouvelle version, j'ai pas envie d'être deux en retard et du coup, je mets à jour.
Ouais, non, je le fais plus comme à une époque où effectivement, je faisais le jour de la release dès que c'était dispo. Je le fais pas obligatoirement à ce moment-là. De toute façon, je regarde un peu sur le net ce qu'on a dit, sur les previews, etc. Mais après, j'essaye de suivre. Mais effectivement, ouais, pas aussi tard que toi. J'attends quelques jours ou quelques semaines, mais bon, en général, je suis à peu près les mises à jour. J'ai jamais eu de gros soucis en fait sur les upgrades. Généralement, l'écosystème, enfin, était mis à jour régulièrement. Donc ouais, pas eu de gros soucis perso.
Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de Apple sur Apple Silicon sur ARM donc?
Alors là,
ça te fait peur ou ça te... Moi, je suis là, je dis, ça fait chier quand même, parce que nous, on est quand même sur du... Enfin, les serveurs sont quand même encore beaucoup sur du Intel.
Ouais. Donc, je ne sais pas, justement, je suis dubitatif. J'avoue que, ouais, ça m'inquiète, parce que, bah oui, on va être vachement différent de nos serveurs et de là, on déploie, etc. Donc, on ne sait pas trop ce que ça va nous réserver comme surprise. Après, je trouve que c'est bien de changer un peu, de faire secouer l'écosystème, parce que c'est quand même depuis, Intel est là depuis des décennies, c'est Intel partout, les AMD, etc. Et puis bon, bah là, on essaye de changer un peu les architectures, puisque les architectures actuelles ont leurs limitations et tout ça. Donc, c'est bien aussi que ça bouge. Mais effectivement, j'aurais préféré que ça bouge chez les autres avant de chez moi. Mais bon, on verra. Après, voilà, il faudra changer une fois de plus d'ordinateur. Donc, ça ne sera pas avant quelques
décennies.
aussi. Ça va dépendre des renouvellements. Donc, oui, mais ouais, je suis curieux. En tout cas, je suis curieux de voir ce que ça donne, si ça va vraiment changer quelque chose ou pas du tout, si ça va être transparent, puisque ça va donner effectivement dans les écosystèmes. C'est là où normalement on devrait, nous développeurs javaïstes, un peu moins souffrir potentiellement que les autres, parce que en théorie, on est déjà plus ou moins protégé de tout ce qui est bas niveau. Donc
ça, oui, parce qu'il y a pas mal, le support de ARM, il a quand même pas mal de temps. On parlait même du ARM sur GraalVM, qui était qui est arrivé plus tard, mais du coup sur OpenJDK, ça fait longtemps.
Ça fait super longtemps, donc voilà, j'ai l'impression qu'on devrait être tranquille, mais bon, on verra. Après, c'est surtout l'environnement de dev lui-même, si les problèmes de stabilité, etc. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est le jour où on passe sur ARM, voir ce que ça donne. Ouais.
Ben après, moi, c'est tout l'écosystème open source. Qu'est-ce que ça veut dire de faire tourner ta librairie FFmpeg sur ARM? Qu'est-ce que ça veut dire de faire tourner Audacity sur ARM? Voilà.
C'est ça.
Toutes ces questions-là, des petits outils qui sont indispensables pour toi, mais qui, dans le grand univers de Apple, ils s'en foutent.
Ouais. Oui, c'est ça.
Qui sont très utiles pour toi.
Ah, ça va aussi faire du ménage, parce qu'effectivement, ça va être là où on va voir toutes les librairies qui sont pas ou peu maintenues. Je sais qu'Audacity avait des soucis, je sais pas où ils en sont, mais ils avaient du mal à suivre.
C'était au niveau de la signature, là.
La signature, etc. Mais la communauté
n'a pas l'air de... Notarized.
Est-ce qu'ils vont avoir pareil? Enfin, c'est comme tous les projets open source. Hein. Est-ce que derrière, ils vont tous avoir le temps de passer sur ARM? Les moyens, parce qu'après, c'est gentil de dire on est sur ARM et donc faut cross-compiler. Parce qu'il y aura un moment de transition aussi. Donc, il faudra que tu fournisses ton truc qui compile sur les deux. Il y a plein de trucs en fonction de... Ouais, ça va quand même être un peu compliqué.
Et nous, on se plaint parce qu'on a les jars qui savent supporter les nouvelles versions de Java. Mais là, t'imagines, c'est carrément...
C'est ça.
Des structures différentes. Ok, alors pour revenir à Golang 1.15, si vous avez des applis qui tournent sur Pentium 4, eh bien, c'est fini. C'est la dernière version qui va supporter Pentium 4. Sinon, plus sérieusement, ils ont amélioré le linker en consommation mémoire et CPU pour certaines archis, notamment en faisant du travail parallèle. Et du coup, ça veut dire, j'imagine, ce que ça voulait dire, c'est les temps de compilation raccourcis, en fait. Hein. Sur certaines archis, pas toutes, mais je ne me rappelle plus le nom, mais vous pouvez aller sur les show notes.
Ça m'intéresse beaucoup. On a un projet en Golang et bizarrement, sur Linker, enfin, il y a des gros soucis quand même sur la partie compile. Okay. Ça chauffe. Hein, on voit le serveur qui a beaucoup de mal et ça prend de
l'air. C'est marrant parce que Golang, c'était parti en disant on compile plus vite que notre ombre.
Oui, bah ouais, peut-être sur des trucs simples, mais dès qu'on complexifie un peu, ou alors je sais pas, mais on n'est pas loin, mais effectivement, ça a tendance à prendre de plus en plus de ressources sans qu'on le comprenne, ce petit truc-là. Donc, ouais. Après, voilà, faut qu'on mette à jour, parce que là, on n'est pas en 1.15, donc on verra ce que ça donne.
Ouais. Espérons. Et un autre truc, c'est qu'ils peuvent embarquer la base de données de des time zones. Qui sont des choses qui normalement sont fournies par le système d'exploitation. Ouais. Et là, on peut l'embarquer pour être indépendant de ça. Donc, j'imagine qu'il y avait des besoins, mais ça veut dire quand même que quand on veut, il y a une mise à jour de, tiens, on décide de changer l'heure d'hiver, machin, il faut recompiler son appli. Donc, intéressant à voir. En plus, si du coup, ça t'impose de passer de Golang 1.15 à 1.18. Parce que tu n'avais pas fait de mise à jour.
Ouais, je sais pas. Ouais, c'est un peu, bizarre.
En tout cas, donc contrairement à Java, ils déprécient, ils disent bah voilà, le Pentium 4 c'est fini, macOS 1.12, c'est surtout celui-là, ça m'a étonné parce que je pense qu'il y a quand même des gens, même si c'est un système où les gens ont tendance à migrer, il y a quand même des gens qui restent sur des anciennes versions. Ouais. Et du coup, c'est intéressant qu'ils aient décidé, bon bah là 1.12 qui est sorti, je sais pas combien de temps, là on est à 15, donc ça fait 3 ans, en dessous, c'est plus supporté. Voilà, sinon, toujours en parlant de Golang, il y a une proposition pour gérer nativement le packaging des ressources statiques dans le binaire.
Dans le binaire, c'est ça. Ouais. C'est pour attacher tout ce qu'on a. Il y a plein de librairies, je sais qu'on a le même besoin. Alors, nous, comme c'est du texte, en général, on peut aussi les inliner. Mais c'est un problème récurrent quand on veut fournir un binaire unique, qu'est-ce qu'on fiche des autres ressources, hein, que ça peut être n'importe quoi, hein, des images, et donc ouais, là ils ont une proposition pour gérer ça nativement via le langage et via des ressources, une déclaration spécifique via les annotations, les commentaires dans les annotations pour pouvoir avoir quelque chose de standard pour faire les attachements et automatiquement les gérer dans le packaging.
Ouais. Mais je trouve ça quand même super complexe par rapport à... Bah pour le coup, GraalVM a le même point. Ouais. Et eux, on dit juste, j'inclus ce fichier, point, et voilà. Et avec un globe. Ouais. Et puis c'est fini. Et là, t'aurais carrément un nouveau mot-clé dans le langage avec un pointeur. Voilà. Je sais pas si ça mérite
une entrée dans l'API,
d'aller dans le langage, en fait.
Oui, je sais pas. C'est, après, il suffit de regarder ceux qui sont intéressés. Ils ont qu'à aller voir le draft, mais le draft est quand même vachement long. Quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, ça va être relativement court parce que les librairies qui font ça, c'est pas non plus des trucs super compliqués. En fait, tu vois le draft, je sais plus combien de pages il fait, mais super grand. Tu dis, ah ouais, quand même. c'est un vrai sujet, là, pour eux. Donc, ouais. Mais je sais pas, ouais, je suis comme toi, je vois le besoin, c'est évident qu'on utilise tous des librairies dans le genre pour le faire, ouais, mettre ça dans le langage et de cette manière, je sais pas.
Ouais. Voilà, en tout cas, à suivre pour les gens qui font du Go. Sinon, il y a Redmond qui a sorti son... Je pense pas qu'on va passer beaucoup de temps parce que moi, je suis toujours un peu sceptique, mais sur les langages, donc là, il y a Java qui est... Alors déjà, globalement, avec Covid, il y a quand même une stabilisation de... Il y a eu peu d'évolution. Globalement, je crois que c'était un peu ce qui voyait. Et puis, Python est numéro 2, donc très populaire là-dessus. Et Java est descendu d'une place qui est donc numéro 3. Donc JavaScript en premier, ensuite Python, ensuite Java.
Et PHP juste derrière. Youhou !
PHP juste derrière, d'accord. Et autre chose à noter, Kotlin qui continue une progression très rapide. Hein, c'est fait parmi les langages qui ont grandi le plus vite, je crois, de ce qu'ils expliquaient.
Ouais, c'est depuis la dernière update, celle de l'année dernière. Oh, pardon. Et allez.
On est en vacances. Notre langue est en vacances. Hein.
Oui, c'est ça. Oui, les mots vont sortir. Ils veulent pas sortir.
Alors, on va passer aux librairies ou middleware, selon comment vous l'appelez. Donc, il y a eu l'annonce, c'était déjà un peu attendu, mais la fin de Thorntail. Donc, Thorntail, c'était prendre le serveur d'application JBoss, donc qui s'appelle Wildfly, et puis le faire tourner en tant que, enfin, dans l'appli mail en fait, et du coup de faire des, la notion de fat jar, etc., qui a été popularisé par Spring Boot et consorts. Et puis, ben, en gros, Sandtel, on a appris beaucoup et qui a été supplanté par Quarkus au niveau de ce genre d'applications qui font vraiment du opt-in des choses qu'ils utilisent. Et puis, Wildfly a aussi comblé son l'espace en rajoutant le support de MicroProfil et le support des UberJar via un plugin Maven va aussi arriver. Et donc, quelque part, il y avait Sandtel qui était pris entre les deux. Et du coup, comme il y a un chemin de migration d'un côté ou de l'autre en fonction de vos besoins, en gros, si vous faites le JB et du JCA, le JB2 et du JCA, vous allez rester, se passer sur Wildfly. Si vous faites des applications qu'on va dire, qu'on va appeler modernes, JAX-RS, etc., vous allez passer sur Quarkus. Voilà, en tout cas, ça a été annoncé là, je ne sais plus, il y a un mois à peu près. Voilà, sinon, une mise à jour d'un comparatif Spring et Micronaut. Donc, c'est quelque chose qui a une comparaison qui avait été faite entre Spring et Micronaut il y a à peu près un an et donc qui a été revisité par, je crois qu'il s'appelle Thomas, qui compare les différences, le fait qu'il y ait pas mal de travaux qui sont faits via des annotations processeurs, donc à la compilation, et puis l'intégration avec GraalVM, et donc il a mis à jour le code et surtout les temps de démarrage des uns et des autres, parce que Spring et Micronaut ont avancé évidemment depuis un an. Voilà, donc si vous voulez un petit refresh à ce niveau-là, vous l'avez. Et puis j'ai un de mes collègues qui a il aime bien explorer les choses, et du coup il avait un site web statique avec Hugo dont il est très content, mais évidemment il n'y a pas de recherche, ou alors il faut faire un Google site, intégrer la recherche Google ou des choses comme ça. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, mais on pourrait prendre utiliser un moteur de recherche de type Lucene, et puis le faire exécuter avec une lambda, ou une fonction, pardon, et puis déployer ça sur Google Cloud Function, Amazon Lambda, ou tous les gens qui font Azure Function, etc., etc. Et du coup, c'est l'expérimentation qu'il a fait. Donc, il a pris... c'est un site web statique. Donc, toutes les données sont connues au moment du build. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il lit et prépare entièrement l'index au moment de la... à chaque mise à jour de son site web. Il compile ça. Ça crée son application, sa fonction. Et c'est sa fonction qui va déployer sur AWS. Alors, il a choisi AWS pour lui. Il déploie ça, et puis, au moment où il y a une recherche, eh bien, ça fait appel à cette fonction qui va lire l'index et afficher le résultat. Et donc, le blog est long, mais c'est intéressant. Il explique, déjà, du coup, comment on peut faire un moteur de recherche un peu custom, même sur un site statique. L'avantage, pour le coup, d'utiliser une lambda dans cette approche-là. Le fait qu'il utilise Quarkus et GraalVM, donc, pour des temps de démarrage, donc, sur les serveurs, je crois, c'est 180 millisecondes. Chez Amazon, en local, 30 millisecondes. Et surtout, il a trouvé un truc, parce que il y a toujours le démarrage à froid, parce que c'est pas non plus un site méga populaire, donc le démarrage à froid qui rajoutait quelques centaines de millisecondes. Et donc, il a trouvé un truc assez smart, c'est que dès que quelqu'un met le focus sur le champ de recherche, il va aller faire un ping qui va aller réveiller la lambda, et ensuite, quand la personne va taper la recherche, ça aura déjà été chauffé. Et donc c'est pas mal d'utiliser l'interface utilisateur comme workaround, on dit en français.
Bonne idée, contournement.
Voilà, mais sinon il y a plein d'infos intéressantes sur comment limiter la consommation des lambdas si quelqu'un s'amuse à aller attaquer son site. Donc il n'y a pas de solution super pratique, donc il explique comment on peut faire un peu de contournement là-dessus encore. Que mettre limiter les privilèges, c'est pareil, c'est complètement pas documenté, du coup c'est compliqué, donc il a fallu qu'il fasse pas mal de tests à la main. Et puis surtout, on en avait déjà parlé, mais les lambda ont choisi en fonction de la RAM, on veut 128, 256, 512, mais en fait les CPU sont associés, donc souvent c'est lent, c'est juste parce que le CPU il est rikiki, et donc si on passe dans son cas de 128 à 256 de RAM, et ben il a des temps acceptables beaucoup plus rapides. Et c'est pas parce qu'il consomme plus de RAM, c'est parce qu'il consomme plus de CPU. Mmh. Un petit retour intéressant pour les gens qui veulent tester sérieusement. Voilà, on va passer à l'infrastructure et on parlait de ARM avec Apple qui fait alors ils appellent ça Apple Silicon, mais en gros ils ont la licence ARM et après ils font les modifications qu'ils veulent. Et justement, ARM qui appartient à SoftBank, qui n'est pas une banque, mais qui est une boîte de, enfin un conglomérat, mais notamment qui fait pas mal de software, de, je crois qu'ils ont Sprint, donc ils font de la télécom, ils font plein de choses. Ils veulent revendre ARM, qui a profit d'ailleurs, parce que ça se passe plutôt bien, mais ils font un peu de la réallocation d'objectifs, j'imagine. Et donc, il y avait un article qui expliquait est-ce que Apple serait intéressé pour acheter ou pas. Je ne sais pas si tu l'avais lu, si tu as des commentaires là-dessus. Ouais.
Enfin, je l'ai lu, enfin des commentaires à titre personnel, pas tant que ça, mais c'est toujours le même étonnement. Enfin, Nvidia, c'est pas étonnant. Nvidia, obligatoirement, ils sont intéressés par tout ce qui est CPU, avec tout ce qu'ils font côté graphique, etc. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un énorme challenge à ce niveau-là. Donc, c'est normal qu'eux, ils essayent d'étendre leur scope et d'avoir plus de poids à ce niveau-là. Apple, je sais pas, c'est toujours étonnant, des fois, leur choix de ce qu'ils rachètent, de ce qu'ils rachètent pas. Enfin, aujourd'hui, ils crèvent les plafonds. Je crois que leur valuation en bourse, c'est la plus haute depuis... Enfin, je crois que c'est la plus haute de tout. Enfin, c'est énorme. Et pourtant, des fois, ils font des...
Je crois qu'ils ont dépassé le...
Je sais plus, c'est...
La boîte de pétrole d'un des pays du Moyen-Orient, qui était la plus haute du monde en capitalisation. Donc là, ils sont à 2 trillions, un truc comme ça.
J'ai vu un truc. Enfin voilà, c'est ça. C'est vraiment énorme. Et aujourd'hui, bon, effectivement, ils investissent pas sur cette partie-là. Enfin, ils rachètent pas en tout cas sur cette partie-là, là où ils font des fois des rachats plus étranges. Donc oui, je sais pas. Enfin, c'est toujours le même truc. Il y a pas tant d'acteurs que ça au niveau hardware, au niveau CPU et tout ça. On va voir ce que ça donne. C'est toujours le problème derrière de la concurrence et puis de la capacité. On en reparlera aussi plus tard sur la partie logicielle, mais tous ces rachats et toutes ces fusions et tous ces ça fait de moins en moins de choix au final, que ça soit sur le hardware ou sur le software.
Ouais, ils ont baissé, ils sont à 1,96 trillion. Vérifier. Ouais, ça c'est la lose. Hein. Ouais, en fait, Apple, ils font pas des rachats de grosses boîtes quand même.
Non.
Je sais pas si t'as des souvenirs, mais moi, j'ai pas trop de souvenirs. Et après, ARM, il y a quand même de la licence et du coup, c'est du ARM. Ils vendent un design à d'autres qui ensuite, il y a un fondeur qui est différent, par exemple TSMC ou voilà, ou Apple en tant que designer. Du coup, je pense qu'ils voulaient pas avoir ça, honorer ces contrats-là. Après, il y a j'imagine des problèmes de concurrence, de monopole et du coup des gens qui viennent regarder. Je ne sais pas si on en parlera peut-être ou pas là, mais vu qu'ils sont de toute façon un peu regardés par le Sénat américain, Apple et d'autres, ils n'ont peut-être pas envie de se mettre là-dedans. Donc, pour Nvidia, ça a beaucoup de sens, je pense.
Oui, pour Nvidia, c'est obligatoire. Oui.
Ouais. Alors, on va passer au nuage. Qui viennent d'arriver parce qu'il a fait très très chaud, mais là, ça y est, les nuages arrivent.
Il fait chaud au secours.
Ouais.
Vas-y, Docker, donc Docker a annoncé, c'était hier, un changement sur leur conditions d'utilisation, les termes of service, les termes d'utilisation de leur service. Et la grande nouveauté, en fait, donc, qui a fait un petit peu de bruit sur Twitter, oh là 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 là, ils changent leur politique. C'est que pour les plans gratuits, donc tous ceux qui utilisent gratuitement le Docker et surtout Docker Hub, donc là on parle de Docker Hub, il va y avoir la registrie, il va y avoir une politique de rétention mise en place pour les plans gratuits, donc uniquement, et uniquement sur les images non utilisées, donc inactives. Donc, toutes les images, donc c'est à partir du mois de novembre, du 1er novembre, toutes les images inactives, donc qui n'auront eu ni pull ni push depuis 6 mois, seront automatiquement nettoyées sur Docker Hub. La justification, c'est pour eux, effectivement, de limiter les coûts, hein. Voilà, ils offrent déjà un service gratuit, donc, et puis, aussi de limiter derrière les problématiques de sécurité en gardant des images, non maintenues, non mises à jour, etc., sur leur hub. Voilà. On en reparlera un peu plus tard, puisqu'il y a d'autres trucs rigolos à ce niveau-là. Mais voilà. Donc, c'est la nouveauté pour si vous utilisez Docker Hub, si vous avez des images, donc, en plan gratuit, et que vous avez des images qui sont pas du tout touchées, depuis 6 mois, à partir du mois de novembre, ça part à la poubelle. Voilà. Donc, à vous de prendre vos précautions. Vous pouvez, bien sûr, passer sur un plan payant, ce que Docker aimerait bien. Sinon, vous trouvez une autre solution. Voilà.
Ouais. De mémoire, il y avait 33% en taille disque, 33% des la taille disque qui ont des images qui n'ont jamais été récupérées ou mises à jour depuis 6 mois. Donc c'est ça qu'ils veulent récupérer.
Ce qui est pas étonnant, parce qu'il y a tellement d'usages de quand on fait des démos, des tutoriaux, des choses comme ça, il y a plein de trucs où des fois on s'amuse, ou alors on nous demande tiens, tu vas pusher chez Docker Hub, machin, etc. Et après, jamais on les réutilise. C'était juste un test pour faire joujou. Et puis, voilà. Donc, effectivement, qu'ils fassent, ça me choque pas. Ça me choque pas. Voilà. Enfin,
C'est pas choquant. Mais par contre, ça, on peut se poser une question. Parce que GitHub, par exemple, qui a probablement le même problème, en fait, hein, des repos qui ont été créés une fois et pas touchés depuis des siècles, ni même regardés par personne. Eux ne font pas ça. Donc, il y a quand même un, ou peut-être il y a des tensions financières qui sont pas les mêmes, ou de la gestion d'infrastructures.
C'est évident, de toute façon. Différemment. On a vu l'année dernière les problématiques qu'ils ont eues, enfin, la découpe qu'il y a eu de Docker avec, j'ai oublié leur nom.
Je me rappelle plus déjà le nom.
Voilà.
C'est pas Miranda, mais.
C'est Mirantis.
C'est pas Miramax non plus. Un truc comme ça.
Bon, mais oui, de toute façon, on sait bien qu'ils ont eu, ils ont, voilà, enfin là, c'est pas le soleil qui brille, des sous qui coulent à flot, etc. Comme GitHub qui a été racheté par Microsoft et voilà, qui bénéficie de tout ça. Ils ont pas les reins assez solides, donc je pense qu'effectivement c'est un ménage qui est contraint par leurs besoins financiers. Mais bon, c'est pas choquant dans le sens où on l'utilise gratuitement. Bon, le ménage qu'ils proposent est pas.
Oui, puis c'est pas agressif quand même.
C'est pas agressif. Voilà, c'est au début les premiers tweets que j'ai vu passer, c'était effectivement ils vont virer toutes les images des plans gratuits au bout de 6 mois. Oui, bon alors là effectivement, c'est agressif. Mais là, c'est vraiment les inactifs. Il n'y a pas eu de pull, il n'y a pas eu de push. Voilà. Bon, si vous voulez les garder, vous faites un job quelque part, une cron tab qui fait des pulls ou des push, et puis c'est tout. Voilà. j'ai rien dit. Mais non, mais voilà. Enfin, c'est pas agressif. Si c'est vraiment pas utilisé, ça sert vraiment à rien. Donc voilà.
Ouais. C'est Mirantis, la boîte.
Mirantis. Merci d'avoir cherché.
J'ai cherché. Voilà. j'ai fait une petite pause pour vous parler de Patreon. Donc déjà, merci à tous ceux qui contribuent au Cascodeur en donnant chaque mois en fait un petit peu. Ça nous aide beaucoup. Pour info, c'est le stockage, les services d'enregistrement. Donc là, on utilise un truc qui s'appelle Zencastr. On va peut-être passer à autre chose, mais voilà, c'est pas beaucoup, mais c'est un peu d'argent à chaque fois tous les mois. L'hébergement du site, l'hébergement du podcast lui-même. Et le matériel, donc là j'ai déménagé récemment, mais j'ai réussi à retrouver un pied que j'utilisais avant, avec un micro que j'utilisais avant, et donc voilà, c'est pour ça que vous avez cette belle voix qui peut être écoutée. Voilà, et pas mal d'autres choses. Alors on n'en est pas à des montants qui nous permettraient d'aller à des choses encore plus poussées, déléguer plus par exemple le mixage du podcast, etc. Alors je vous avoue que ça descend un petit peu plus que ça monte là ces derniers temps. C'est pour ça que je voulais vous dire que c'était effectivement très utile pour nous de votre support. De tous les mois. Voilà, donc si vous avez quelques euros à utiliser par mois, et que les cascodeurs c'est quelque chose qui est important pour vous, ça serait avec plaisir. Vous pouvez aller sur patreon.com/lescascodeurs. Sachez que Patreon, je ne sais pas si vous suivez, mais donc historiquement, ils étaient que en dollars. Là, ils viennent d'ajouter le support des British Pounds et de l'euro. J'ai pas encore bougé parce que ils vont aussi rajouter le support de la migration entre les dollars et l'euro au niveau des comptes des gens qui ont déjà créé un compte. Donc là, si on crée une page nouvelle, on pourrait rester en euros. Mais là, l'outil de migration dollar vers euro pour les anciennes pages est pas encore là, mais ils annoncent qu'ils vont faire ça d'ici quelques mois, hein, dans les prochains mois, un ou deux mois idéalement. Donc, stay tuned. Il y a des chances que, bah, dès qu'on peut, qu'on migre vers des euros. Déjà, ça évitera les taux de change. Donc ça sera bien. Et puis surtout, c'est un peu plus rassurant pour vous de dire, bah voilà, c'est 2 euros et c'est pas 2 dollars convertis en euros et qui bougent et machin. Voilà, je peux pas faire la migration tout de suite, mais sachez qu'on garde un œil là-dessus et qu'on a entendu les gens qui étaient un peu réticents au fait que ça ne soit pas en euros nativement. Voilà, et donc là, Arnaud, on va passer au web.
Audrey, où es-tu, Audrey? Reviens.
Voilà.
Les news web. Vu, voilà, donc déjà sur le front, on a vu 3 qui vient de passer en release candidate au mois de juillet de mémoire. Donc ils ont tout réécrit quasiment, ils ont fait une grosse réécriture avec un but, c'est d'améliorer énormément les performances. Ils ont pourtant essayé par contre de pas toucher les API, de garder une compatibilité maximum. Bon, ça veut pas dire qu'il y a zéro breakage, mais pas loin. Ils ont retravaillé la doc et ils ont ajouté une composition API un peu comme ce qu'il y a dans les React Hooks. Voilà pour les grosses nouvelles. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils prévoient de faire la finale, mais ça devrait pas tarder à mon avis à la rentrée. Là c'est en train d'être testé, validé, etc. Donc voilà. Donc Vue 3 est en train d'arriver.
En tout cas, la release candidate était de fin juillet, 22 juillet.
Fin juillet, voilà, c'est ça.
En tout cas, j'ai trouvé ça très louable et très challengeant de dire on a tout réécrit, mais on a essayé de ce qu'ils appellent les API de surface, de limiter l'impact, ce qui fait que les connaissances que vous avez dans le framework, vous allez pouvoir les réutiliser. On sait que ça n'a pas toujours été le cas. Je crois que c'est Angular qui avait entre la 1 et la 2 qui avait, c'était pas le même framework. C'était compliqué. Je sais pas si t'as parlé. Ouais, ils ont rajouté de l'API de composition. Voilà, il y a pas mal de choses et autour de la doc sur lesquelles ils ont amélioré. Mais cette idée de dire on va garder les API de surface, mais on va retravailler les choses internes. On va en casser quelques-unes parce qu'il y a des fois, il y a des limitations de choix qui ont été exposées dans l'API sans qu'on sache à l'époque. Donc j'imagine qu'ils ont fait quelques mouvements là-dessus, mais j'imagine qu'en tant qu'utilisateur, c'est agréable.
Voilà. Ouais, je pense que c'est important et ils le mettent bien en avant parce que voilà, ils sont bien au courant de ce qui s'est passé chez Angular et c'est vrai que moi personnellement, ayant été un développeur Angular 1 qui a tout fichu à la poubelle quand Angular 2 est arrivé, j'avoue qu'effectivement c'est le genre d'argument qui me parle. Il me dit, ah ouais, j'investis sur quelque chose que je vais pas être... Voilà, surtout quand c'est pas vraiment quelque chose qui nous est naturel. Le front, c'est pas naturel pour tout le monde. Ça peut demander quelques efforts. Mais effectivement, ouais, quand on se retrouve avec à passer un bon bout de temps en formation, et puis derrière, ah bah non, on a écrit quelque chose, ça a le même nom, mais c'est plus pareil. Mais non. voilà.
C'est clair. Donc étant de l'autre côté, on sait que c'est tentant, on voit les erreurs, on voit les choses qui coincent et on aimerait bien corriger, quoi.
Tout à fait. Non, mais c'est toujours compliqué, hein, de garder la compatibilité. On sait très bien qu'on a, enfin, c'est toujours le fameux dilemme entre garder la compatibilité et puis faire des ménages et tout. Les extrêmes entre des Java qui évoluent très lentement, tout à l'heure on parlait de Go qui sont beaucoup plus agressifs, etc. Donc chaque écosystème a ses propres pratiques et ses propres normes, mais voilà, c'est vrai que il faut un juste milieu. Ça dépend un peu de ce qu'on fait, ça dépend aussi de si on fait du jetable ou quelque chose qui a tendance à rester, etc. Sur le front, c'est vrai que beaucoup de gens considèrent que des fois c'est jetable. Alors, est-ce vrai ou pas? Je vous laisse le dire, mais et donc ça les gêne pas de réécrire et de recommencer from scratch. Bon, moi personnellement, ça m'amuse pas de réécrire le front une fois, donc encore moins deux fois, clairement.
Ouais, alors moi j'ai pas eu trop d'écho côté front, mais je sais que quand on avait fait l'interview sur les applications Android, c'est pas jetable parce que c'est vraiment des projets qui sont plus gros, enfin aussi gros que des back-end monolithes historiques, hein, en fait, au final. Donc, ouais, donc tu te dis pas, tiens, je vais réécrire l'appli de From Scratch. Non,
je pense que c'est une fausse. C'est pas parce que ça évolue très vite côté web, mais bon, après, le back-end, ça évolue aussi. Hein. Mais c'est pas parce que ça évolue très vite que les projets ont des durées de vie très courtes. Hein. Enfin, faut arrêter de rêver que les gens, enfin, les entreprises, après, ça dépend, bien sûr. Hein, on peut opposer une start-up à un grand groupe bancaire, etc., qui n'ont pas du tout les mêmes moyens et les mêmes investissements et les mêmes budgets. Mais non.
Qui c'est qui met à jour plus vite?
Eh ben justement, c'est ça qui est rigolo. C'est peut-être pas ce qu'on croit.
Voilà. Bon, en parlant de rêve, bah. Angular a sorti sa roadmap.
Moi, ça me fait plus rêver. Je suis désolé. Donc bon, en tout cas, c'est bien. C'est bien qu'ils aient sorti enfin une roadmap. Ils ont arrêté quand même de tout casser comme ils avaient fait à l'époque. Donc ils ont rajouté là dans la. Dans ce qui est en progrès, il y a TypeScript 4, pardon. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Le testing,
testing bout à bout, enfin, oui, E2E. Voilà, il y a Ivy, où ils utilisent Ivy pour les librairies. Donc, Ivy, alors pas le Ivy de Java que vous avez connu de la fondation Apache, à celui du monde JavaScript. Qui permet de distribuer, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre dans la... Qu'est-ce qu'il y avait qui m'avait marqué?
Ils commencent à évaluer Rx JavaScript, les choses qui ont été rajoutées dans la V7 et après, pour pouvoir les rétrofiter dans le framework, pour que les gens puissent utiliser, en gros, les nouveautés de Rx JavaScript. Pour bénéficier de ces nouvelles API et des choses comme ça. Des fois, c'est pas juste les API sont là et je les utilise, il faut rétrofitter certaines API, donc je pense qu'il y a un peu de boulot là-dessus. Puis, pas mal d'autres choses. Il y avait, en tout cas, il y a un truc qui est réduire le backlog. Donc, que j'ai trouvé intéressant comme remarque. Donc, ils se disent, voilà, on a un backlog, on s'aperçoit qu'il a grossi, qu'on n'a pas forcément beaucoup regardé. Du coup, on va passer la moitié de notre engineering pour aller vider ce backlog-là, pour aussi comprendre ce que la communauté veut en termes de fonctionnalités. Et puis, une fois qu'on aura fait ce travail de nettoyage de printemps, on va repasser à garder au moins toujours 20% de l'engineering qui va surveiller ce backlog et avancer. Ce qui m'a... En fait, ça m'a choqué initialement en me disant, mais si t'écoutes pas ta communauté, en gros, tu développes ton truc et puis tu fais un dump du code et puis les gens utilisent ou pas. Enfin, c'était un petit peu curieux. Après, je sais que c'est toujours difficile. On a des roadmaps qu'on a dans notre tête qui sont influencés par les besoins internes et les besoins externes qu'on a vus à un instant donné. Et puis voilà, on a toujours des évolutions. Et donc, c'est peut-être ça, et c'est peut-être normal ces ratios-là de 20%. Je ne sais pas si toi, tu as du feedback là-dessus sur...
Je sais pas, nous après, pour notre écosystème, c'est à peu près ça qu'on a nous en interne, avoir du 50% sur l'engineering, donc les nouvelles fonctionnalités, etc. Et puis après, plutôt du 25 sur tout ce qui est maintenance, et puis 25 bug fix, on va dire. Je pense que c'est à peu près une idée des ratios de ce qu'on investit. Après, je pense que cette partie...
Oui, mais là, ils disent pas forcément bug fix, tu vois, le backlog, c'est d'accord. Genre, il y a machin qui a demandé telle fonctionnalité, et en fait, on lui avait dit fume, parce que ça nous intéresse pas.
Je suis d'accord. Mais il faut... Enfin, c'est toujours compliqué. C'est toujours ce problème de la course à la feature qui... C'est pas parce qu'elle est délivrée qu'elle est finie et qu'elle va répondre dès sa version 1, on va dire, aux besoins. Il y a toujours un peu ce problème de... Et on le voit sur plein de projets, hein. Ah, ça y est, la feature, elle est là, et puis bon, bah derrière, ouais, mais c'est pas utilisable, ou c'est pas suffisant, ou c'est buggé. Donc, je sais pas, c'est toujours, ça dépend comment tu comptes ce temps passé, non pas sur écrire la feature elle-même, mais aussi sur faire qu'elle arrive vraiment à un état mature, parce que, enfin, c'est facile de dire, on met des trucs dans le backlog, et puis ça y est, on l'a livré. Bon, ouais, mais dans quel état? C'est ça qui est...
Et puis il y a aussi les gens, on leur dit, et voilà, on a amélioré la feature B. Et là, tu dis, bah ok, mais bon, elle était déjà là. Et en fait, voilà, il y a, comme tu dis, un cycle de maturation qui est moins sexy. Parce qu'on se dit, bon, on a fait ce truc-là derrière et on veut pas y retourner. Et puis, moins sexy parce qu'au niveau des news, les gens ils disent, oh, ok, ben, elle était déjà là. Voilà. Donc, c'est y a un effet pervers.
C'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Le problème, il est là, c'est que si tu peux jamais, bon, de toute façon, tu peux jamais sortir une nouvelle fonctionnalité de manière générale parfaite dès le départ. Et c'est vrai que derrière, le temps que tu vas passer à l'affiner et à faire qu'elle soit correct, on va pas dire parfaite, bah ça effectivement c'est pas vendeur, tu le mets pas sur, tu le mettras sur tes release notes, ouais, on a mis à jour, on a amélioré machin, on l'a fixé, mais ça fera pas le buzz, contrairement au moment où tu l'as sorti, où t'as dit ah j'ai cette nouvelle super feature. En tout cas bon, je pense que c'est très bien de rendre public et de faire un dump des roadmaps, on verra tout à l'heure pareil chez GitHub. Je pense que c'est important pour tout le monde parce que ça donne une idée un peu d'où vont ces projets, quelles sont leurs priorités, est-ce que ça, et quand finalement tu choisis une techno, que tu choisis une plateforme, GitHub, etc. Je trouve que c'est important de se rendre compte comment ils pensent, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils trouvent urgent ou important de faire, parce que finalement quand tu prends ta décision, tu sais très bien que tu t'embarques sur des mois ou des années avec la techno ou la plateforme en question, et avoir une visibilité, c'est bien. Il y en a tellement chez qui c'est complètement obscur, et effectivement t'es obligé d'attendre leur super keynote machin truc mouf pour dire ah ils ont sorti super fiche. Ouais bon j'étais pas au courant, j'en savais rien, voilà, c'est pas là au moins alors c'est moins marketing, c'est effectivement c'est plus compliqué à ce niveau là mais je trouve que pour l'utilisateur final c'est quand même plus agréable d'avoir cette transparence. Après on pense ce qu'on veut hein, de le roadmap, chacun dira ouais mais moi j'aurais mis ça avant machin etc, ça sert à rien et tout, ça a l'effort d'être fait et après faut le maintenir, c'est ça qui est compliqué, mais voilà, le fait qu'il y ait quelque chose qui soit écrit et qui donne une visibilité, je trouve que c'est bien.
Ouais, je suis d'accord. Et pour le faire, pour Quarkus, c'est énormément de boulot parce qu'effectivement, on parle pas d'un framework fait par une personne. Du coup, il y a un ensemble d'individus avec chacun des priorités, des affinités aussi. Et du coup, d'aller prendre son bâton de pèlerin et d'aller demander à chacun c'est quoi ta priorité, attention, par rapport à tel autre truc, t'es sûr que ça a du sens, voilà, d'agréger ça et d'en sortir une roadmap dans lequel tu vas pas faire un dump de tout ton Jira, parce que du coup c'est illisible, il faut que ça reste assez agrégé pour que ça soit lisible, donc c'est beaucoup de taf en fait de faire et de maintenir, comme tu dis, une roadmap. Voilà. On va passer à la data, à la donnée, et donc il y a MyRox, voilà, qui est comment on appelle ça d'ailleurs, un back-end qu'on appelle ça je regarde.
Un stockage, enfin un moteur de stockage.
Le moteur de stockage MySQL. Voilà. MySQL, vous savez, il a plusieurs moteurs de stockage alternatifs, InnoDB étant le plus connu, et ensuite, il y en a qui sont plus transactionnels. Voilà. Il y a tout un ensemble. Et donc là, il y en a un qui s'appuie sur RocksDB, et donc qui s'appelle MyRox. Et RocksDB, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est du clé valeur local. Qui s'appuie sur une structure informatique qui s'appelle le log structured merge tree, dont on a parlé déjà dans le passé, qui est très intéressante. Elle s'appuie sur le fait que quand on lit les choses de manière séquentielle, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on a des caches, par exemple un disque dur, quand on lit les secteurs les uns après les autres, eh bien il peut lire les choses dans une seule rotation, et donc c'est beaucoup plus efficace, ou c'est dans le cache et c'est beaucoup plus efficace. C'est vrai aussi de la mémoire, donc quand on a chargé de la mémoire L3 à la mémoire L1 et qu'on lit séquentiellement tout plutôt qu'un bit par-ci et ensuite un autre bit et d'aller recharger le cache, ça a des gros avantages. Et donc RocksDB, le log structure merge, ça s'appuie là-dessus. Je vous laisserai lire les détails, c'est un peu compliqué à expliquer en 3 minutes. En tout cas, il montre qu'il y a des performances plutôt correctes, même pour le TPCC, qui est alors pour les plus jeunes, vous savez pas ce que c'est, mais c'est en gros un benchmark de de vitesse transactionnelle que des serveurs d'applications utilisent, que des bases de données utilisent pour se comparer en fait. Et donc c'est du transactionnel classique, on va dire, et donc ça reste une référence en termes de test parce qu'il est quand même assez compliqué. Et ils n'ont pas à rougir, notamment pour comparer à InnoDB. Et l'usage un peu clé de RocksDB, qui a, de MyRox qui a été fait par, je crois, les gens de Facebook. C'est quand on a, quand on stocke beaucoup de données, largement plus que ce qu'on a en mémoire, mais on veut stocker beaucoup de données. Quand on fait beaucoup d'écriture et par rapport à la lecture en ratio, et surtout quand on veut stocker ça de manière beaucoup plus compacte. En fait, une des différences par rapport à InnoDB, c'est que sur le disque, le stockage des colonnes est beaucoup plus compact dans cette approche séquentielle où, en fait, on écrit tout l'un à la suite des autres. Ensuite, des fois, on fait des retris et des réordonnancements, mais ça reste beaucoup plus compact sur disque. Voilà, donc si vous avez ces besoins-là et que vous utilisez MySQL ou MariaDB, ces moteurs-là, vous pouvez aller voir MyRox.
Je vais y penser pour mon blog, mais je pense que vu le nombre d'articles poussés dedans, je suis pas sûr que ça soit vraiment performant et utile.
Ouais. Alors, on va passer à l'outillage, avec pas mal d'infos autour de Git, d'ailleurs.
Ouais, beaucoup de Git, ce mois-ci et ces deux derniers mois, un petit peu. Alors, Git 2.28 est sorti. Des versions de Git, il y en a régulièrement. Sur celle-là, le gros changement, suite à tous les mouvements, Black Lives Matter, etc., les communautés se sont réintéressées fortement au nom des choses, on va dire, dans les produits. J'ai pas nommé, mais tiens, d'ailleurs, on pourra en parler après de Jenkins, mais donc pour retirer tout un tas de mots qui sont toujours pas très politiquement correct, on va dire, donc tout ce qui est master, tout ce qui est slave, tout ce qui est blacklist, whitelist, etc. Et donc chez Git, là, la version 2.28 permet de configurer via une nouvelle option qui s'appelle init default branch le nom de ce que l'on appelait la master branch jusqu'à présent. Vous pouvez la configurer, lui donner un autre nom qui pour beaucoup désormais devient la main branch. Voilà. Donc, et on verra que tout à l'heure, GitHub suit le pas juste derrière. Voilà, donc c'est la grosse nouveauté, je crois. Et l'autre, c'est sur les Bloom Filters. Et je n'ai rien compris sur les Bloom Filters. Peut-être que toi, t'as compris.
Les Bloom Filters, c'est une structure qui est très, très petite en consommation mémoire ou disque, d'ailleurs, qui permet de dire statistiquement... de décider d'avoir des faux positifs ou des faux négatifs, mais en tout cas, quand on décide d'avoir des... Alors souvent, qu'est-ce qu'on veut ? On veut... On accepte les faux négatifs, on n'accepte pas les faux positifs. Donc le faux positif, ça serait de dire... Non, on accepte les faux... Oui, on accepte les faux négatifs. Est-ce que dans ce fichier, il y a la clé 12 ? On accepte qu'ils nous disent « oui, il y a la clé 12, mais en fait, il n'y est pas ». D'accord ? Ça nous permet de dire « ah oui, et le contrepart de ça, c'est de dire, le Bloom Filter, il va dire « si je te dis qu'elle n'est pas dedans, c'est que c'est sûr, elle n'est pas dedans. Si je te dis qu'elle est dedans, il y a 95 ou X% de chance, en fait, on choisit que la clé soit dedans ». Et c'est utile parce que des fois, en fait, ce qui se passe, c'est que s'ils ne se trompent pas, on a exactement l'information, donc ça, c'est top. S'ils se trompent, on va faire un accès disque supplémentaire qu'on aurait pu éviter. Et par contre, s'il nous dit qu'il n'y est pas, c'est sûr qu'il n'y est pas et on peut éviter cet accès disque. Et donc, d'ailleurs, dans les log structure merge, dans RocksDB, c'est des choses qu'ils utilisent, les Bloom Filters, pour dire... Les log structure merge, c'est un ensemble de fichiers qui sont triés, mais quand on dit est-ce que la clé 12 est dedans, s'il nous dit c'est sûr qu'elle est pas dedans, on peut passer à ce qu'on appelle l'étage d'en dessous pour aller regarder si la clé est dedans, et du coup on a évité un accès disque juste par cette structure de données qui est très compacte. Et donc j'imagine dans Git on fait ça pour aller scanner des choses pour du Git blame ou récupérer des informations beaucoup plus rapidement qu'avoir à lire entièrement la structure de blob, là, les fameux objets que Git stocke. Alors, si j'avais utilisé le Bloom Filter pour Git, c'est ce que j'aurais fait. J'ai pas lu l'article, mais j'espère que c'est ça. Normalement, c'est ça.
Ok, ça va. Et donc oui, on peut. Je rajouterai le lien dans les show notes, mais pareil, donc dans ces renommages, je sais que nous, donc communauté Jenkins, on fait la même chose. Donc désormais, vous n'appellerez plus un Jenkins le master Jenkins, mais le contrôleur Jenkins. Donc ça vient d'être validé hier. hier ou avant-hier. Donc on a renommé les slaves, ça fait très longtemps qu'on les appelle plus des slaves mais des agents, le master ça devient les contrôleurs et tout ce qui est whitelist et blacklist ce sont les deny list et c'est les whitelist, accept list. Allo list, je crois. Ouais.
Souvent, c'est allo list. Dans ce que j'ai vu dans les communautés. Ouais.
Voilà. Donc, pour les nouveautés sur leur nommage. Après, pas mal de news côté GitHub aussi. La première news, c'était au mois de juillet, donc ça devait être début juillet, je sais plus. Ils ont fait, donc, comment ça s'appelle, le GitHub Antarctic. Attends, j'ai oublié le nom. Le GitHub Archive Programme. Et le Arctic Code Vault.
Arctic Code Vault.
Code Vault, ouais. Voilà, c'était ça que je cherchais. Ce qu'on fait GitHub, ils ont pris le snapshot de tout leur code depuis le début de l'année. Alors pour tous les repos qui ont plus que je sais plus combien d'étoiles ou je sais plus quoi. Donc c'est pas tous les repos GitHub. Hein, ils ont pris que les plus populaires. Ils ont fait des archives.
Sûr, parce que je crois qu'ils avaient fait une première phase où c'était vraiment les plus populaires. Et là, visiblement, ils ont fait une deuxième phase.
Ah,
où...
tu crois, ils ont tout mis.
Pourvu qu'il ait été relativement actif, je crois.
D'accord.
C'est pareil, ceux qui n'ont pas bougé pendant 10 ans.
D'accord. Moi, je m'étais arrêté effectivement sur les gros, enfin où il y avait une règle. Mais effectivement, là, dans l'article, je vois plus la règle. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils l'ont
tiré. Je crois que justement, ils ont plus généralisé. Par exemple, moi, je suis dedans pour une raison. Enfin, certains des repos sur lesquels je contribue et dedans, voilà. Ouais. Donc, je suis pas non plus.
Moi aussi, je suis trop content. Mais après, voilà,
Badge, t'as vu, on a un petit badge.
Oui, on a un petit badge et tout. Je pense que la Terre entière quasiment est sur son petit badge. Enfin, je sais pas. Il faut avoir effectivement contribué sur des projets relativement populaires. Donc, bien sûr, moi, ça va être Jenkins, ça va être Spring Boot, ça va être. Alors, Spring Boot, je vais avoir 3 commits et 4 lignes de code, mais bon, c'est pas grave, je suis dedans. Quarkus, je crois aussi. J'ai vu que je dois avoir Quarkus parce que je dois avoir fait 2 lignes dessus.
Ouais, celui-là, il est archivé.
Et il est archivé. Donc l'idée c'est de faire de l'archivage physique. On parle pas d'archivage. On dit pas. L'idée c'est pas d'envoyer, d'avoir un data center dans le pôle Nord et d'envoyer les données, une copie de données là-bas. C'est d'avoir une archivage physique, donc avec des films. Tout a été mis sur film. Et ça a été emmené physiquement dans un centre sécurisé en Arctique. Et l'idée, en fait, pour eux, c'est
films. Pour info, c'est des microfilms en fait, et donc c'est des images en fait qui sont les unes à la suite des autres. Et ça ressemble un peu à des codes-barres en fait, des QR codes pardon. Ça ressemble à des QR codes. Et en gros, ils ont 8,8 millions de pixels par image. Et du coup, tu peux lire l'ensemble des images qui est l'équivalent d'aller lire ton disque dur, les 0 et les 1 de ton disque dur.
Et ils ont envoyé comme ça, donc ils ont encodé de cette manière 21 téradonnées de données. Qu'ils ont donc mis sur des bandes, dans des gros camions, dans des gros cartons, tout ça c'est parti.
D'ailleurs, uniquement 186 films, donc
186 films.
En fait.
Ouais, non, je trouve que c'est génial, 186 films. Bon, ça fait quand même, il y a quand même un certain nombre de cartons, tu vois, sur les photos, mais c'est pas tant que ça, si vraiment tous les cartons c'est l'ensemble des films. Ça prend pas de place, hein. Franchement, ça tiendra chez moi. Ils ont envoyé ça, et donc l'idée c'est de fournir un archivage à très très long terme pour les générations futures. Ils vont agrémenter ça de pas mal de docs, donc c'est en cours, je crois que tout n'est pas livré encore, mais ils sont en train de le faire, sur comment utiliser ce code, comment est-ce que, à quoi ça ressemble, comment ça se compile, et même tout ce qui est les notions d'informatique, donc ils expliquent quel est l'état de l'informatique aujourd'hui dans le monde, de manière à ce que, l'idée c'est de... dans des centaines d'années, voire des milliers d'années, si des gens retombent là-dessus, puissent exploiter le code que l'on avait archivé à cette époque. Et donc, je crois qu'ils vont le faire régulièrement, je ne me rappelle plus, j'avais vu quelque part, je ne vois pas dans ce blog post, mais je sais qu'ils doivent le faire normalement plus...
C'est 1000 ans la durée de vie des films. Là.
Des films, voilà, c'est ça. Ouais.
C'est stocké dans une ancienne mine, dans du permafrost, là, tout au nord. Donc c'est rigolo. C'est pas loin de là où ils stockent d'ailleurs les graines. Il y a un stockage de graines, de la flore dans une structure pareille au nord qui est conservée sur du très long terme pour pouvoir repartir, pas de zéro, mais repartir en cas de cataclysme.
Ouais.
Donc c'est pas loin.
Et donc ils avaient prévu, bon, ils ont été un peu embêtés bien sûr à cause de Covid, parce qu'ils avaient archivé ça, ils avaient fait le snapshot au mois de février, donc j'ai retrouvé la date, c'était début février, et donc ils pensaient eux emmener, ils étaient tout contents de pouvoir emmener eux-mêmes les cartons directement dans l'Antarctique, etc. Dans l'Arctique, pardon, pas l'Antarctique, l'Arctique. Bon, malheureusement, ils ont été obligés de déléguer ça à des structures vu l'incapacité pour les gens de se déplacer, et ça s'est arrivé là-bas début juillet. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous en parle maintenant, c'est que ça a été un snapshot de fin février, mais c'est arrivé sur l'Arctique et ça a été stocké au mois de juillet. Ouais. Voilà, voilà. Autre news chez GitHub. On continue. On parlait de profil, donc on est super content parce qu'on a un super badge maintenant, certains d'entre nous, donc avec cet article, ce stockage arctique. Quelque chose qui a été publié et documenté un peu mieux ces derniers temps, c'est comment faire sa page perso, sur GitHub, en utilisant en fait un repository. Vous pouvez créer un repository au nom de votre compte. Donc moi, mon compte, c'est à Héritier. Donc si je crée un repository à Héritier, je mets dedans un README ou plus, si je veux, et je peux automatiquement afficher le contenu donc sur ma page de profil perso. Quand vous allez sur mon profil à Héritier, je peux afficher comme ça mes infos, donc les gens peuvent afficher leur contribution, documenter leur profil, voilà, faire un peu un équivalent d'un LinkedIn, on va dire, un peu plus technique sur leur profil. Voilà, donc on vous a mis les liens sur comment faire si ça vous intéresse, si vous voulez mettre en avant des informations sur votre profil perso. Voilà, vous pouvez créer un repo et documenter tout.
Après, je trouvais ça excitant, mais après, tu dis, j'ai déjà une page web, déjà un LinkedIn.
J'ai déjà un blog que je maintiens pas, qui gagne rien, j'ai déjà ça. Ouais, bon, non. mais voilà, pourquoi pas. Autre news chez GitHub, donc cette fois plus technique, OpenAPI. Donc OpenAPI, c'est un format standardisé qui vient de Swagger. Ouais. Donc Swagger qui existe donc depuis très longtemps, qui permet de documenter vos API REST, non pas que le format de données, mais aussi donc l'enchaînement, donc effectivement comment interagir. Vous êtes client d'un service REST, comment vous devez interagir avec. Donc Swagger, depuis longtemps, ils fournissent un format de fichier pour décrire ça, qui d'ailleurs est générable depuis vos frameworks préférés, hein, Spring Boot et autres. J'imagine que t'as la même chose REST, JAX-RX, etc. Donc tu génères un format standardisé, et derrière tu as une UI pour pouvoir browser les API et même les tester, puisque tu as des signatures et l'explication de comment les utiliser, etc. Et donc ils ont mis en place une version standardisée qui s'appelle OpenAPI, c'est la V3, puisqu'en fait eux la leur c'était la V2. Et donc GitHub publie enfin leurs API sous format OpenAPI V3. Voilà. Donc vous pouvez utiliser ce format-là, et donc l'avantage c'est qu'aujourd'hui il y a des clients chez Swagger et autres qui vous permettent de prendre ces descriptions-là et de générer les stops clients, de générer des tests. Il y a par exemple aussi chez Spring, c'est Spring Cloud Spring j'ai oublié le nom.
Ah, le truc pour les tests là.
Ouais.
Je me rappelle plus.
Contract, hein. Spring Cloud Contract. Ouais. J'ai failli le louper, qui permet, donc lui, par contre, il faut faire la partie serveur. Donc là, ça permet pas de le faire je crois pas que ça permette de le faire sur une API existante, mais quand vous fournissez, vous avez votre projet Spring Boot, et vous avez vos API REST, ça vous permet de générer automatiquement, toute la partie OpenAPI, les descripteurs, etc. Et en plus, toutes les ressources de test pour vos clients. Donc, ça va vous générer les stubs pour moquer vos services REST d'une API qui voudrait vous utiliser. Ça va vous archiver automatiquement votre modèle de données pour accéder aux clients, etc. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se faire au niveau de la standardisation des descripteurs et d'OpenAPI, donc c'est assez intéressant de voir que de grands acteurs comme ça, comme GitHub, se mettent enfin au pas. Ça devient quelque chose de sérieux sur lequel il est intéressant de travailler.
Ouais. Après, je sais pas, parce que je crois qu'ils sont pas mal passés à GraphQL aussi, et des échos que j'ai eus, c'est quand même assez libérateur de pouvoir utiliser la partie GraphQL de leur API, et je sais pas si tu peux, enfin, je crois qu'il y a il y a des trucs qui émergent pour faire l'équivalent de OpenAPI pour GraphQL, mais je suis pas sûr que ça soit encore
Ouais, je sais pas.
Remarque, si GraphQL, il a sa propre spec, mais en tout cas, voilà, je sais pas si c'est intégré, pardon, à OpenAPI. Ouais.
J'ai pas vu, mais je sais pas, là, je saurais pas.
On parlait de roadmap.
Ouais, oui, donc on parlait de roadmap. GitHub aussi a fait sa roadmap. Voilà, ouais. Donc GitHub aussi a publié une roadmap. Alors eux, bah, bien sûr, ils le font directement sur leur repo avec leur notion de projet. Donc il y a un repo dédié et vous allez dans le projet et vous avez la roadmap. C'est assez intéressant. Donc là, vous la voyez sur les trois ou quatre sur le trimestre, quatre. Les trois trimestres à venir, voilà. Donc il y a Q3, Q4, Q1 et puis ce qui est futur. Donc ça vous permet de voir un petit peu les gros chantiers qu'ils ont. Donc comme tout à l'heure on en parlait sur Angular, c'est exactement la même idée. Et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, bah par exemple ce qui va arriver là sur Q3, ils sont en train de travailler justement sur le fait que les branches des repos par défaut elles s'appelleront plus master mais elles s'appelleront main. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui va arriver au prochain. Et puis il y a tout un tas d'autres choses, bon on va pas les lister là hein, mais les limites des API pour autres qui vont être augmentées, un code scanner, donc ce que j'ai vu, a priori, ils veulent, après avoir voulu tuer les Nexus et les JFrog, après avoir voulu tuer les Jenkins et autres avec leur GitHub Action, là, ils veulent tuer Sonar Cube avec un code scanning intégré qui va vous permettre de faire du linter automatique et tout ce qui vaut bien pour scanner votre code directement.
Tu crois que ça les tue ou en pratique?
J'en sais rien. C'est la concurrence en plus, et ils aiment bien reproduire ce qui existe déjà partout, donc voilà, donc ils ont un truc d'analyse de code qui est en cours, qui va arriver. À ma compréhension, c'est ce que j'ai vu
ils avaient déjà le scan des vulnérabilités là.
Ouais, mais ça c'était sur les dépendances. Donc ça c'est là où ils marchaient sur les plates-bandes des Nexus et consorts là qui font la gestion des binaires et des problèmes de sécu, etc. Et donc là maintenant ils vont faire aussi donc côté code automatiquement les scans pour faire la qualité, etc. À ce que j'ai compris, voilà.
D'accord.
Donc là c'est en compétition avec à ma compréhension avec SonarCube. Voilà, et donc tout un tas d'autres choses, mais voilà, donc si vous vous intéressez à GitHub, si vous êtes client gratuit ou pas de GitHub, bah voilà, vous pouvez aller voir la roadmap, voir ce qui va vous arriver dessus, et donc voilà, en Q3, donc je sais pas quand est-ce que ça sera, mais vous aurez les repos quand vous créerez vos nouveaux repos, vous serez content que la nouvelle branche s'appellera main et non plus master, donc bonne chance pour vous y retrouver, de savoir si par défaut c'est main ou master. Je pense qu'on va souffrir quelques mois, le temps qu'on s'y retrouve entre les anciens et les nouveaux repos. Je pense qu'on va s'y perdre un peu dans nos workflows et dans nos automatisations.
Ouais, mais alors, si j'imagine que ça sera les nouveaux, ils vont pas.
C'est les nouveaux. Oui, non, c'est que les nouveaux. Ils font les nouveaux repos. Bah, comme Git. Git, par défaut, tu peux changer. Mais là, ça sera les nouveaux chez GitHub. Les nouveaux, la branche s'appellera main et non plus master.
Ouais. Ouais, mais après, Git, tu peux changer par défaut, mais le défaut n'a pas été changé.
C'est ça. Exactement.
Ouais, et sur Git, un truc intéressant, c'est entrée, en fait, à une sur leur roadmap, a déjà le dans quel univers, dans quel type de fonctionnalité ça va, donc sécurité, etc., etc. Ensuite, le ou les produits, donc les noms des produits, et ensuite la qualité, genre bêta, general availability, etc., etc. Donc c'est un filtrage qui peut être utile pour vous aussi. Voilà, sinon VS Code se fait un petit peu taper sur les doigts par une personne.
Oui, une personne.
Donc VS Code, c'est quelque chose qui a été open sourcé par... c'est un projet qui vient de Microsoft, dont le cœur est open sourcé. Et du coup, il y a tout un écosystème qui est construit dessus et j'imagine aussi d'autres contributeurs sur la partie plus cœur de VS Code. Et la personne, elle ralouille parce que elle dit c'est plus open core que open source. Pourquoi ? Parce que il y a notamment... Alors déjà, il y a la notion de télémétrie qui est... Alors, c'est toujours un sujet sensible, la télémétrie. Est-ce qu'on active la télémétrie ou pas ? C'est très utile pour les projets, pour savoir ce qui est utilisé, du coup, les priorités, surtout les choses à déprécier pour garder le projet agile, en fait, enfin, lean. C'est vrai que ça a toujours une connotation assez négative de base. Donc, c'est des sujets sensibles que Microsoft, je crois, a fait un virage plutôt correct là-dessus, puisqu'il se croit qu'il partage les infos de télémétrie avec tout le monde, en fait. Donc, c'est ça l'idée. Voilà. Mais en tout cas, il y a notamment deux extensions qui est LiveShare, qui permet de faire, en gros, du Google Doc, mais sur le code. Donc partager en gros le même code en même temps, donc pouvoir faire du pair programming mais à distance, enfin entre autres. Voilà, et puis l'autre c'est remote, c'est, alors je sais pas exactement si ça fait remote, c'est, ça fait tourner un VS Code en remote ou ça permet d'exécuter des choses en remote, j'ai jamais trop regardé en fait. D'accord. mais en tout cas, c'est deux extensions qui ne sont pas ouvertes en fait et qui ont leur des licences propres Microsoft. LiveShare au moins, Remote, je ne sais pas trop, mais LiveShare au moins, ça s'appuie sur une partie serveur. Donc après, ça n'est que la partie client d'un, en gros, d'un service. Du coup, voilà, c'est probablement une des raisons pour laquelle ce n'est pas open sourcé. Et puis le troisième point qu'il avait, c'est que la marketplace elle-même est propriétaire. Et donc, vous ne pouvez pas faire un fork de la marketplace, en gros.
Ce qui est peut-être certainement le problème le plus impressionnant, parce que bon, autant qu'il y ait la télémétrie, bon, de nos jours on la voit à peu près partout, etc. Mais c'est vrai que le problème des marketplaces, on en reparlera tout à l'heure avec Apple, iOS, etc. Mais on est toujours sur ce problème de présence des grands acteurs qui permettent pas de s'ouvrir, et la marketplace aujourd'hui sur toutes ces plateformes, c'est là où tout se passe finalement. Et si elles sont pas ouvertes, si elles sont pas si on peut pas y accéder d'une manière libre, obligatoirement on peut pas contrôler les monopoles, on peut pas contrôler les règles, on peut pas, enfin il y a plein de choses comme ça. Donc effectivement, moi sur les extensions et tout ça, je sais pas, ça me choque moyennement. La télémétrie, bon, je suis d'accord, hein, que c'est un vrai problème. Enfin, c'est un vrai problème, c'est une vraie question en termes de privacy et autres. Mais la marketplace, ouais, ça reste embêtant. Ça, c'est voilà. Mais c'est partout pareil. Enfin, là, pour le coup, c'est pas. Je dirais que c'est pas que.
Hein. Alors attends, déjà, je vais corriger les incohérences qu'on a dit sur remote. Donc, remote, en fait, ça permet d'avoir la partie UI de VS Code et par contre les outils de son côté serveur ou dans un container en fait. Donc c'est une extension qui permet de faire tourner faire tourner les language servers etc. Ailleurs que sur ton desktop en tant que tel. Voilà, donc ça, c'est le côté intéressant du truc. Donc, Quarkus, on a essayé beaucoup de débats en interne sur comment faire les choses, et en l'occurrence, beaucoup de complexité rajoutée pour faire ça, mais on a une notion d'extension, donc c'est plus ou moins l'équivalent d'une marketplace. Et le code, tu peux prendre le serveur qui fait code.quarkus.io et en faire une version ailleurs, et ça va fonctionner. Et c'est pareil, tu peux définir une notion de plateforme qui est différente de celle qui est fournie par la communauté. Et voilà, ce n'est qu'une question d'aller pointer vers un autre fichier YAML ou JSON, je ne sais plus. Voilà, donc on a essayé de rester neutre là-dessus pour garder l'écosystème, en tout cas conceptuellement ouvert. C'était important pour nous, donc on a fait beaucoup d'ingénierie, voire d'over-ingénierie pour arriver là-dessus, plutôt que de dire c'est trop compliqué, on le garde en marketplace fermé.
C'est ça.
Donc ça peut se faire.
Ça peut se faire. Je pense qu'après c'est pareil chez Spring, c'est pareil. Hein. C'est leur plateforme de Start Spring.io, etc. Tout ça c'est open source et tu peux le forker, tu peux le faire le tien, etc. Mais voilà, dès que les acteurs n'ouvrent pas ces moyens de partager et d'étendre leurs produits. Ouais, il y a un risque de monopole et de contrôle.
Ouais. Allez, on va passer vu qu'on est dans un mood négatif, on va passer à la sécurité.
on va rester positif, tiens.
C'est ça. Il y a un témoignage de quelqu'un un Français d'ailleurs, qui s'est fait usurper son identité. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Et voilà, donc c'est intéressant, c'est assez rapide à lire. Mais en gros, il y a qu'on appelle ça couvreur de dettes. Moi, je connais des gens qui font du recouvrement de dettes, mais en tout cas, j'ai jamais été de l'autre côté, mais en tout cas, c'est apparemment plutôt agressif comme démarche. Oui. Et du coup, on lui dit, ok, je vais vous envoyer les huissiers, etc. Donc, il s'est aperçu qu'il y avait une créance que lui n'avait pas fait, mais que quelqu'un qui avait usurpé son l'identité avait fait, que il fallait porter plainte auprès de la police. La police dit, est-ce que vous avez le contrat de la créance que vous avez pas faite?
Ah non.
Et donc, il dit, bah non.
Ah non.
Et quand on demande à la société qui a la créance, qui dit, l'opposé de la créance, pardon, moi, je pourrais vous donner le contrat. Vous êtes pas la personne qui a fait la créance.
C'est surtout qu'ils ont pas de preuve que c'est lui. Donc, il pourrait lui-même créer une fausse identité à partir des informations qui lui passent. Donc, voilà.
Voilà, c'est ça. Donc, il a été un peu dans le, je sais pas s'il y a un équivalent en français, mais du catch 22. Et donc, il a fini par récupérer ce fameux contrat et du coup, d'aller à la police. Et puis, il en a eu 3 ou 4, je sais plus. Donc, au fil de l'eau, et chaque fois qu'il avait une nouvelle créance, il y allait. Puis, à un moment, il s'est dit, bon, mais c'est pas possible, quoi. Ça va pas continuer à l'infini. Et je crois qu'il est allé à la Banque de France. Il a demandé s'il était fiché, ce qu'il était, puisqu'il avait il avait 7 ou 8 créances. Enfin, il en avait encore plus que ce qu'il avait découvert jusqu'à présent. Et du coup, à la Banque de France, on peut faire des démarches d'usurpation d'identité et du coup, résoudre le problème à la racine. Voilà. Et ce qui s'est aperçu, son soupçon, c'est que quand un jour il est passé d'un appartement à un autre, je crois qu'il était locataire, mais voilà, on demande ta fiche de paye, ton arbre généalogique, etc. Et du coup, là, il y a eu de la perte. Il y a quelqu'un qui a récupéré ces informations-là, qui a fait une fausse fiche de paye adaptée, mais qui était clairement basée sur des fiches de paye existantes qu'il avait, avec une fausse carte d'identité basée sur les données qu'il avait, etc. Et du coup, il a...
Il pense que c'est ça. Il pense que du fait des dates, etc., et de quand ça a commencé et tout, il pense effectivement que c'est le seul endroit où il a pas, où il a dû partager ses informations personnelles, hein, parce qu'après, bon, voilà, il y fait attention, hein, il les jette pas, il les distribue pas dans la rue. Et effectivement, donc on en revient au problème que, là, on parle de la sécurité qui est pas la sécurité informatique, mais personnelle et physique. Et c'est vrai que c'est pas évident. Un de ses conseils, ça reste de marquer les documents qu'on délivre de manière assez significative. Effectivement, je pense pas que ça pose de soucis, donc de marquer les documents qu'on donne à ce genre d'agence, etc., de manière à ce que, alors, ça empêchera pas obligatoirement les arnaques, mais ça pourra un petit peu les dissuader. Mais dans tous les cas, s'il reste une preuve, ça permet de
la retrouver. Je suis pas sûr qu'il disait ça dans ce sens-là. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est je mets un petit point dans le E à tel endroit et je sais que ça, je l'ai donné à Foncia quand j'ai fait ma location.
Que moi, j'aurais fait un gros watermark Foncia ou je sais pas quoi, tu vois. J'aurais fait un gros watermark.
Ouais, mais si c'est un watermark, le gars, ouais, mais du coup, l'usurpateur, il va l'enlever, tu vois. Il est pas non plus.
Mais je sais pas s'il va réussir à l'enlever facilement. Enfin, c'est toujours le même truc. Alors, c'est ça, je sais pas ce qu'est le mieux entre faire un petit truc discret qui effectivement va te permettre qui va pas empêcher l'arnaque, mais qui va te permettre potentiellement de les retrouver. Mais bon, faut que tu aies un code un peu malin pour que tu retrouves qui a fait quoi. Ou alors tu fais un gros truc effectivement qui peut-être les dissuade. Je sais pas ce qu'est le mieux.
Ouais. Et après, il dit, mais votre fiche de paye a marqué mon nom dessus, donc c'est une fausse. Enfin, bref, j'imagine des questions. Voilà, en tout cas, ce qu'il dit aussi, c'est d'acheter un broyeur à papier. Donc, tous les papiers que vous recevez avec votre nom, votre adresse et d'autres informations personnelles, vous les passez au broyeur.
C'est ça.
Et surtout, son erreur, c'est de ne pas avoir anticipé tout de suite et d'aller à la source du problème, du coup, aller jusqu'à la Banque de France pour trouver la cause. Et du coup, il a perdu un an de démarche comme ça.
Enfin, une chose qu'il reproche quand même beaucoup, c'est a priori quand même l'attitude du commissariat auquel il est allé et qui n'a pas voulu reprendre sa plainte sans preuve. Ce qui a priori n'est pas du tout normal. On doit pouvoir poser une plainte sans preuve, puisque c'est à eux justement d'aller chercher les preuves. Parce que le problème qu'il avait, c'était de récupérer les faux documents qui avaient été fournis comme valeur chez les vendeurs. Et ça, c'est la police qui est censée le faire, puisque justement on dépose une plainte. Et ils sont voilà. Donc là, il y a quand même un truc qui est bon. Effectivement, il dit, si j'avais su, je serais peut-être allé voir directement. Parce qu'après, a priori, le problème, c'est quand on a commencé à déposer une plainte dans un commissariat, c'est compliqué d'aller dans un autre. Enfin, on peut pas y aller pour une histoire de suivi ou je sais pas quoi. Donc, il regrette aussi d'être... Quand on lui a dit non, je veux pas la prendre, il a fait qu'il essaye un autre commissariat. Voilà. Donc, mais a priori, le commissariat n'est pas censé refuser votre plainte. Il n'y a pas de... Mais bon, voilà.
Ouais. Il y a une brigade qui est dédiée à ces... à ces crimes, disons, dématérialisés. Et il y avait un épisode de No Limits Sécu qui interviewait je crois que c'était la gendarmerie qui gérait ça, mais donc qui gérait cette brigade. Et c'était intéressant d'avoir le retour, les petites choses qu'on pouvait faire. Eux, ils essaient aussi de faire un peu d'expliquer les démarches, les personnes à qui appeler, alors peut-être ça passe par le commissariat du coin, mais il y a d'autres outils qui sont pas encore trop dans le collectif sur lequel il faut regarder. Alors là, je retrouverai pas, mais si vous êtes vraiment assez curieux, je pense que c'était au pire l'année dernière, 2019-2020, cet épisode probablement 2019. Vous pouvez retourner et l'écouter, c'était intéressant.
En tout cas, voilà. Faire attention, c'est la base et ça arrive à tout, ça peut arriver à tout le monde malheureusement. Et ça c'est un des cas, hein. Mais après il y a tellement d'autres cas effectivement via Internet et tout ça, les phishing, les machins, etc. Enfin voilà, faites attention.
Ouais. Et sinon OpenJDK avec Alpine comme système d'exploitation en dessous sur Docker Hub s'appuie sur une version d'Alpine qui n'est plus supportée depuis mai 2019. Donc faites attention à la stack entière que vous utilisez dans les images Docker. Et est-ce qu'elle est continuellement mise à jour? Alpine est connue pour avoir eu pour être utilisée et non mise à jour. Et du coup, de garder les failles pendant longtemps.
Ouais, donc là, effectivement, c'est plus mise à jour depuis deux ans puisqu'elle était la fin de, c'était en 2019 la fin du support. Si vous étendez OpenJDK 8 et autres en version Alpine, méfiez-vous, passez sur Adopt OpenJDK qui eux sont à jour. C'est ce qui coûte le moins cher et ce qui est le plus facile. Mais nous, on a eu c'est un problème qui avait été déjà remonté il y a quelques mois. Donc on est en train, nous, de le régler sur la communauté de Jenkins, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui étendent encore ces images-là. Et c'est pas parce qu'elles sont marquées justement donc officielles chez Docker Hub, hein, parce que ce sont des images notées comme officielles, elles sont mises à jour et sécurisées, etc. Donc voilà. Faites très, très attention à ce que vous utilisez.
Oui, Adopt, je sais pas si on l'avait dit dans ce podcast, je crois, mais qui est passé à la Fondation Eclipse d'ailleurs.
Je pense qu'on en a parlé, on peut le rappeler. Ouais. Ça passe, c'est en train de passer sur. Et ça va avoir un autre nom. Alors là, ne me demandez plus, ça a changé.
Eclipse Adopt OpenJDK.
Non, je ne sais plus. Ça va être un autre nom, mais je ne me rappelle plus. C'est complètement différent.
D'accord. Et oui. Voilà. Alors, loi société et organisation. Donc là, on est sous l'œil bienveillant, mais néanmoins strict de Audrey.
Donc là, on sait qu'on va se faire taper sur les doigts si.
Non, mais il y avait pas mal d'infos au final. Ouais. Donc voilà. C'est une. Donc là, c'est pas la faute d'Audrey. Hein. Enfin, plutôt, c'est pas la Audrey n'est pas la cause. C'est l'actualité.
Fais attention
qui a amené ça. Voilà, c'est ça. Ouais, merci de.
Notre homme, maintenant, il a appris à faire attention à tout ça. Exactement. C'est ça. C'est... Il fait gaffe.
Alors déjà, Frances Allen, qui est une pionnière de l'informatique, est morte à, je sais plus quel âge, mais bon, bref, 88 ans. Et c'est une, ça a choqué Arnaud, mais c'est une chercheuse qui a fait toute sa carrière chez IBM.
Ah oui, mais effectivement, quand tu m'as dit ça, quand tu m'as partagé l'article, je me suis dit, toute sa carrière chez IBM, oh, comme ça doit être long. Mais effectivement, après, bon, je me moquais un peu, et après, bon, j'ai vu son palmarès, je me suis dit, bon, je suis une grosse merde à côté. Donc effectivement, c'est une grande dame de l'informatique qui a fait sa carrière chez eux. Je te laisse expliquer puisque c'est toi qui as partagé l'article. Mais voilà.
Ouais. Alors déjà, c'était la première femme fellow chez IBM. Alors IBM, il y a pas tant de fellows que ça pour la taille de cette organisation. Donc c'est vraiment un badge d'honneur très très important. Et elle a fait beaucoup de son travail dans l'optimisation de la compilation et surtout la faire monter de niveau par rapport à, au lieu de coder en assembleur, on a monté de niveau. Donc, essayer d'optimiser la compilation en allant sur des niveaux les plus hauts possibles. Donc, elle a parlé de Fortran, mais elle faisait des choses avant, donc PL, pas PLSQL, mais PLI. Bref, voilà, pas mal de langages qui sont les parents et les grands-parents de ce qu'on utilise. Voilà, elle a fait beaucoup de travaux de recherche là-dessus. Elle a l'idée, je crois, tous les projets de recherche qui s'appelaient BlueJean chez IBM de Parallel Computing. Donc, c'est quelque chose qui a démarré en 95 où ils se sont dit, bon, loi de Moore, ça y est, il y a la limite au niveau de l'augmentation des gigahertz. Et du coup, de travailler au calcul parallèle. Voilà, elle a aussi gagné le Turing Award pour, je crois, j'imagine l'ensemble de sa carrière. Je me rappelle plus les détails, voilà. Et moi, j'étais étonné parce que je ne connaissais pas son nom. Et puis, deuxièmement, je serais curieux d'aller voir. Ça a piqué mon intérêt. Qu'est-ce qu'elle a fait comme optimisation de compilation? Quelles sont les choses? Et j'ai pas trouvé ça très facilement. Enfin, je l'ai pas trouvé. J'ai pas pu passer beaucoup de temps dessus, mais ça m'intéresserait d'avoir, voilà, la liste des grands trucs qu'elle a, enfin des choses clés qu'elle a amenées, voilà, qu'on utilise aujourd'hui encore dans les langages et dans l'optimisation. Voilà, en tout cas, paix à son âme. Et puis je sais que, enfin, sur la fin de sa carrière, enfin plutôt après sa retraite, elle a beaucoup travaillé à justement pousser pour la présence de femmes dans l'informatique, quelque chose où elle qui était très commun quand elle a démarré et puis qui a diminué très fortement. D'ailleurs, dans l'article, je crois qu'ils donnaient une des raisons. Je me rappelle plus le détail, mais ils expliquaient. Voilà, c'est ça. Elle dit donc avant sa mort, disparaît aussi l'un des derniers témoins d'une époque, ce jour révolu dans l'histoire de l'informatique, celle où les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Elle entre dans la discipline dans les années 50, etc. Et les choses se gâtent dans les années 60 et 70, lorsque l'informatique devient un domaine scientifique et industriel à part entière, un processus qui conduira à l'apparition d'un plafond de verre pour les femmes, auquel elle estime avoir été elle-même confrontée. Voilà. Voilà, sinon, on est dans les bonnes nouvelles quand même dans cet épisode. Mozilla, qui est une fondation, mais qui a beaucoup de personnel, y compris des développeurs, donc a licencié un quart de sa force de un quart des gens qui travaillaient pour Mozilla, donc 250 collaborateurs.
C'est ça.
Visiblement, ils voulaient faire un refocus de Mozilla, et puis le Covid a fortement accélérer les choses parce que les revenus qui venaient de la pub et de la voilà du moteur par défaut, ce genre de choses a visiblement beaucoup diminué et du coup il y a des zones qui vont un peu disparaître en termes, enfin pas disparaître mais dont l'investissement va être réduit ou éliminé. C'est autour des outils pour les développeurs, ils veulent vraiment se reconcentrer notamment sur Firefox, sur la partie sur les utilisateurs et pas tant les développeurs, ce qui est un petit peu dommage pour nous parce que du coup en termes, voilà, Safari c'est pas exactement le meilleur navigateur en termes d'outils de dev, donc il restera à Chrome en gros.
C'est ça.
Et puis se focaliser sur des nouveaux produits et le time to market, c'est-à-dire de pas dire on va faire ça sur 50 ans, mais d'être beaucoup plus dans l'agilité, à dire on lance ce produit, on le fait marcher, on essaie d'influencer le marché pour amener ces idées-là du web ouvert, etc., etc. En lisant le message public, qui est aussi le message privé, mais qui est référencé du message public, donc il est pas si privé, mais il était à l'intention des collaborateurs. Ce qu'on lit en tout cas de la plume de la personne qui l'a écrite, c'est que Mozilla était un petit peu sclérosé dans son existant et qu'il fallait un changement. Après, est-ce qu'il a raison ou pas? Est-ce que sa vue est signe de réalité? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai ressenti moi dans les phrases. Voilà, c'est toujours un peu triste de voir des gens perdre leur boulot. Après, c'est des gens qui ont en général du talent, donc il y a des chances qu'ils retrouvent du travail assez vite.
Oui, c'est triste pour eux, c'est évident, mais ouais, c'est triste pour nous. C'est surtout triste. Voilà, c'est triste pour l'écosystème. Voilà, comme tu disais, enfin, on aura le choix entre Chrome et Chrome. Voilà, sachant que Microsoft a basculé il y a pas si longtemps que ça sur Chrome avec Edge. Oui, Edge. Avec Edge, voilà. Donc,
Edge, nouvelle génération, parce qu'en fait, Edge, oui,
c'est avec, ça. Tout dernier, là, celui qui est sorti, là, il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, c'est Chrome partout, c'est le même moteur. Ce genre de choses, ce genre de monopole, en général, ça ne tire pas vers le haut. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment dommage qu'on en arrive là.
Alors, on va continuer les bonnes nouvelles. La Chief Operating Officer de Pinterest a été licenciée et selon elle, c'est parce qu'elle elle parlait vocalement de la discrimination rampante qui existait dans la société. Alors, c'est un article très très long, enfin pas très très long, mais qui est difficile à résumer, donc je vais pas prétendre le résumer. Moi, je l'ai trouvé très très bien parce qu'il m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Elle a pris le temps d'expliquer bien les choses. Elle a une vue d'exécutive et pas et pas d'autres niveaux hiérarchiques. Donc c'est un petit peu. Enfin, on n'en voit pas tant que ça. Ouais. Voilà. Donc elle disait que Pinterest qui la plateforme elle-même est visiblement très ouverte, etc. Avec beaucoup de femmes notamment qui partagent sur Pinterest, mais au sein de la société, visiblement, il y avait quand même la notion de des gens confondés et qui restent carrément en contrôle. Et du coup, il y avait des décisions par des sous-groupes, des meetings après les meetings où les vraies décisions étaient faites. Et du coup, ça restait dans une bulle avec peu de place pour les contrepoints et les choses comme ça. Et du coup, il y a un meeting au final où les choses sont dites, mais il se passe pas vraiment grand-chose. Et un meeting derrière où les vraies décisions sont prises. Et du coup, ça a créé une culture du secret un peu pour dire, si on veut faire avancer les choses, il faut les cacher, sinon on se fait défoncer. Et elle est arrivée pour au moment où Pinterest avait besoin d'accélérer et d'améliorer ses outils au niveau de. Bon, c'est une boîte qui s'appuie sur le advertising, donc la vente de publicité. Et donc, ils avaient besoin d'améliorer ça, d'industrialiser ça et de que ça soit plus utile à leurs annonceurs. Et du coup, de ce qu'elle décrit, elle a été a eu pas mal de succès à ce niveau-là avec une bonne augmentation du chiffre d'affaires et du nombre de clients. La préparation de l'IPO de Pinterest arrive. C'est une personne qu'on a déjà fait dans son passé, donc qui est probablement dans le board la plus qualifiée pour faire ça. Elle fait le début de ce qu'on appelle le roadshow au niveau des investisseurs pour le faire. Et puis, au bout d'un moment, on lui demande de plus y être. Et puis un peu plus tard, elle s'aperçoit que ce qu'on lui avait dit, c'est que tous les exécutifs avec la même type de compensation, avec du vesting, tous les X temps, ce qu'elle s'aperçoit, c'est qu'elle avait un vesting plus tardif et donc plus discriminant par rapport aux autres membres du board. Donc elle l'a dit au RH, elle l'a fait corriger. Et là, les problèmes se sont vraiment accélérée. Elle s'est mise à être exclue un peu de certains meetings. À un moment, elle s'aperçoit qu'il rate un trimestre et ce qu'il s'aperçoit, c'est qu'il y a eu un changement dans l'engineering, au niveau du produit fait par l'engineering. Ça a été mal ou pas communiqué aux équipes opérationnelles, marketing, vente, etc. Du coup, il y a eu un problème là-dessus. Donc, elle essaye de dire il faut corriger ça, améliorer les choses. Ça veut dire aller un peu à l'encontre du Head of Engineering qui se trouve être le CEO et fondateur. Et du coup, là, elle se met à être exclue des meetings, des décisions. On parle beaucoup de blameless rétrospective. Là, visiblement, c'était pas le cas. Bon, apparemment, elle a pas exactement la langue dans sa poche. Donc après, faut accepter. Mais ce qu'on voit, c'est que cette organisation, visiblement, elle refuse de se remettre en question. Voilà. Ou en tout cas, c'était incohérent de dire, on veut que tu viennes dans l'organisation pour changer les choses. Et au final, on veut pas que tu changes les choses. Voilà, donc là, cette culture du secret et de dire on va sanctionner les gens qui montrent là où ça fait mal. Ça a posé de problèmes. Donc au final, elle s'est fait virer. Elle parle de choses à faire. Donc c'est Alors déjà, c'est pas que pour Pinterest, c'est surtout pour vous dans vos sociétés, voir si effectivement parler, dire les choses qui vont pas, être écouté, ça pose problème ou pas. Et de dire qu'on va améliorer les choses, c'est une chose. Le faire, c'est une autre. Et donc elle parle beaucoup de qu'il faut arrêter de, enfin faut walking the walk comme on dit. Donc ça c'était un de ses points, c'est faisons des actions effectives pour résoudre ces problèmes-là. Essayer de reconnaître et de désarmer le système de biais de gens. Ou en l'occurrence là, c'était encore pire que ça parce qu'il y avait un système d'une caste des gens qui avaient confiance et qui faisaient en gros du lèche-bot du CEO si j'essaie de résumer et les autres en gros. Et du coup, bon bah ça c'est une organisation qui en général, enfin. L'omnipotence du CEO a une certaine limite, donc il y a une limite à ce genre d'organisation. Voilà, de prendre des actions proactives pour éliminer la discrimination à la cause. Et ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, quand il y a un exemple d'exécutif qui parle de quelque chose mais qui fait différemment, et bien ça se propage en fait. Ça se propage dans toute l'organisation et il n'y a pas de... Enfin, c'est difficile après de dire, bah attends, toi t'étais pas censé faire ça, mais sauf ce que c'est fait au niveau exécutif. Et puis, si dans la boîte il y a des problèmes de rétention, les gens ils sont, voilà, on dit voilà, on veut s'ouvrir à la diversité, on embauche, voilà, je sais pas, des membres de minorités, et puis en fait ils sont là, et puis ils s'en vont, donc faut qu'on en réembauche, etc. Donc si on a un problème de rétention, faut essayer de trouver la cause et d'essayer de travailler là-dessus et pas leur dire vous êtes pas dans la culture de l'entreprise. C'est aussi d'essayer de la faire évoluer ou d'amener de la valeur à la culture d'entreprise. Donc ça c'est un de ces points assez forts. Voilà, il y en a d'autres. Je vais vous laisser lire un peu tout ça, et ça va jusqu'à demander au board des directeurs d'être responsables en fait de ces choses-là, donc d'aller en haut, faut que ça vienne d'en haut, ce genre de choses. Très beau blog, malheureusement sur Medium, donc normalement je vous ai trouvé un lien qui vous permet d'y aller sans vous faire repasser par la case login, mais au cas où, voilà, essayez d'insister, c'est un blog qui vaut vraiment le coup. T'avais d'autres commentaires là-dessus ?
Non, on t'a bien résumé, mais bah, enfin, c'est comme d'hab, c'est triste. Triste de voir ça, triste de voir le harcèlement qui en découle, voir le comportement. Enfin bon, bref, c'est malheureusement, j'imagine, c'est ce que l'on voit hein, reporté par beaucoup de femmes et autres personnes. Voilà, c'est assez représentatif. Et je pense
de l'ouverture dans l'organisation dans laquelle je travaille en ce moment, en fait. Tu vois, de alors des fois il y a besoin de meetings après les meetings pour faire certains choix quand on voit que ça patauge dans les décisions, mais des meetings de façade qui servent à rien pour après avoir des décisions derrière, c'est un symptôme tellement
Et ce que tu disais, enfin ça change, c'est de voir ça à haut niveau, puisque justement souvent bon, les femmes n'accèdent pas au poste de haut niveau malheureusement. Allez, écoute, et là la femme elle y a accédé, bon, elle se fait laminer effectivement sur ce point-là. Donc
après eh bien avec voilà, elle a été senior je sais pas quoi chez Google,
elle a un parcours, enfin voilà, enfin
elle a rien à prouver en fait hein,
mais... non elle a rien à prouver du tout, enfin clairement.
Voilà, on va passer à la CNIL qui a, alors finalement c'est vieux tout ça, mais qui a tapé sur les doigts de Stop Covid.
Oh là là, ça fait mal. Oui, c'était mi-juillet, je crois que c'était ouais, ça devait être mi-juillet quand on était sorti de je sais plus quelle phase du confinement, je me rappelle plus trop. La CNIL avait soumis publiquement donc un avis un peu défavorable sur la fameuse appli Stop Covid, donc dont on parle depuis des mois, que depuis le début on dit. Bon, c'est pas très, c'est quand même pas très bien ce truc-là. Effectivement, ils ont remonté les points les plus critiques. Alors, il y avait un truc très rigolo qui était, faudrait déjà que tous les utilisateurs se mettent à jour. Donc, ça m'a fait rire. C'est obligé vos utilisateurs à se mettre à jour. Ah, bah, le jour où t'auras le choix. Mais après, sur les mobiles, d'une manière générale, t'es relativement à jour. T'as pas trop le choix. Donc, c'est quand même pas quelque chose qui, donc bon, c'est vraiment un point qui me semblait complètement hors du temps. Et puis après, bon, bah, c'est ce qu'ils ont surligné, c'est comme d'habitude, c'est ce qu'on avait déjà dit, c'est les problématiques liées à la RGPD, le consentement que vous faites, etc., qui sont pas vraiment explicites et bien énoncées, tout ça. Et puis, bah, tout ce qui concerne, pareil, les notions de privacy, ils demandent à ce qu'il y ait des audits et des tests plus complets de fait, bah, sur tout ce qu'ils avaient fait côté les Google ReCAPTCHA, l'anti-DDoS qu'ils ont mis en place, etc. Voilà. Donc, bon, des trucs qu'on avait déjà vus, mais voilà. Donc, là, il y a eu un avis public de la CNIL qui a dit, ah, stop Covid, faut faire attention, c'est pas bien ce que vous faites. Voilà. Donc, ils ont fait leur boulot. Donc, au moins, ça mérite d'être visible. Et maintenant, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose de fait côté stop Covid, mais comme personne l'utilise, de toute façon, je pense que ça ne sert pas à grand chose, à part coûter des sous à nos impôts. Voilà. Désolé.
Ah oui, c'est vrai que l'hébergement, il vaut son pesant d'or.
Je sais plus, oui, on en avait parlé il y a un ou deux épisodes, le prix d'hébergement fixe et de maintenance du truc. Enfin, c'est hallucinant pour ce que c'est. Encore un gros fail comme d'hab. Les GAFA. Alors, eux, la présidence va être remise au vote. C'est quand donc attends, quand est-ce qu'ils votent?
En novembre.
C'est en novembre, donc voilà, ça approche très vite, les élections présidentielles aux États-Unis. Donc, il est temps de s'intéresser une fois de plus à l'impact qu'ont les GAFA. Donc là, on va parler bien sûr des Google, des Amazon, des Google, oui, de Amazon, mais surtout des Facebook, des Twitter, enfin tous les gros, et de leur poids dans.
Voilà, en l'occurrence, c'était effectivement le CEO de Google, CEO d'Amazon, qui n'avait jamais testifié au Congrès. Le CEO de Facebook et le CEO d'Apple, précisément là, sur ces gens-là.
Voilà, donc on est bien dans les GAFA en plus, beaucoup. Et donc, bon, bah, ils se sont fait interviewer le Congrès américain.
Le Sénat. Chambre des représentants, non, pardon, c'est le Congrès, du coup. Enfin, oui, c'est pas le Congrès, mais la Chambre des représentants.
Et donc c'est la première fois pour certains d'entre eux, comme tu le disais. Bon, il n'en est pas sorti grand-chose, hein. Au final, ils se sont fait un petit peu taper sur les doigts, un petit peu remonter les bretelles, comme quoi, bon, faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils font, à comment ils gèrent l'information, comment ils gèrent tout ça. Mais bon, a priori, ça n'a pas changé grand-chose pour eux. Voilà.
Non, mais alors moi j'ai eu une lecture un peu différente. Alors c'est pas moi qui ai fait la lecture, mais une analyse un peu différente, c'est que on aurait pu dire bah tiens, les élections arrivent, ils ont besoin de montrer qu'ils tapent sur les doigts des grosses plateformes qui piquent l'argent des Américains. Mais en fait, ça vient quand même après une analyse de millions de documents et de qui ont été demandés par la Chambre des représentants à ces boîtes-là. Donc il y a des emails privés qui ont été sortis et qui ont été mis dans le public, notamment sur comment l'exemple que j'ai vu, c'est sur comment Apple voyait son App Store et pourquoi il refusait Amazon de faire acheter les livres dans l'appli Kindle, par exemple, ce genre de choses. Et du coup, c'est probablement juste une première étape d'étapes supplémentaires qui peuvent aller assez loin, comme on a pu voir avec Microsoft qui avait eu son procès avec risque de démantèlement là dans les années 90. Donc, certains pensent que c'est plutôt ce niveau-là quand même, avec des choses assez sérieuses. Et en fait, quand on regarde Google, Apple, bon, ils ont des grosses tailles, mais c'est pas les mêmes. Apple, on va pas leur reprocher d'abuser de la vie privée des gens. Par contre, on va leur reprocher une position dictatoriale, on va dire, sur l'App Store. Et en fait, quand on regarde le point commun, c'est effectivement les positions dominantes. Facebook, c'est genre, je vois que telle appli est téléchargée plein de fois, donc je la rachète, comme ça je reste le dominant dans mon domaine. Voilà, donc c'est... Je crois que c'est un avertissement de la position dominante qu'ont ces boîtes et de leur dire on va aller fouiner dans vos poubelles et du coup faites le nettoyage maintenant et aujourd'hui on est sérieux quoi. Ça, c'est des interprétations que j'ai vues dans certaines émissions américaines.
Bon, après, espérons que, je sais pas, espérons que ça donne suite après. Et qu'il y ait des choses. Mais, c'est en tout cas, voilà. Donc, les élections américaines approchent et en tout cas, ils sont sous le feu des projecteurs.
Après, et d'ailleurs, en parlant d'App Store, on ne peut plus faire de Fortnite sur iOS.
Mon fils est fou, il va me bannir. Alors, pour l'instant, si, je crois, parce que l'appli a été retirée, mais donc tant que tu l'as d'installer, ça ne t'empêche pas de jouer, mais tu ne peux plus l'installer, tu ne peux plus la mettre à jour, etc. Donc, effectivement, ça a commencé, c'est hier, je crois que c'est hier, hein, c'est qui a commencé une nouvelle guéguerre. Alors, c'est un peu le Xème chapitre, hein, ce n'est pas la première fois. Donc, Epic Games, donc, qui fait Fortnite et plein d'autres applications adorées par plein de gens, ou détestées d'ailleurs, mais... mis en ligne une mise à jour donc, de Fortnite il y a quelques jours, je pense, sur lequel en fait.
Non, c'était genre hier matin ou avant-hier matin, ils ont été hyper rapides.
Oui, ils ont été. Enfin, en tout cas, ils ont été rapides, ils ont mis à jour, donc ils ont mis à jour, ils ont fait une mise à jour qui offre aux utilisateurs le moyen d'acheter donc les achats dans l'appli, donc ils appellent ça des V-Bucks dans Fortnite, etc. Enfin, bref, si vous avez des enfants, vous devez connaître ça par cœur, si vous n'en avez pas, je vous laisse imaginer. Vous pouvez acheter dépenser vos sous en
c'est sur de la monnaie jeu. Virtuelle que t'achètes.
Et c'est de la monnaie virtuelle.
Avec de la monnaie physique.
Vous pouvez acheter vos gadgets, etc. Et donc, par défaut, normalement, sur la plateforme Apple, mais c'est pareil, je pense, chez Google, donc t'es obligé de passer par le système d'Apple pour faire tes achats, tes in-app achats, enfin, tes achats dans l'application. Et donc, à chaque fois, Apple prélève 30% de ce que tu gagnes. Ça énerve beaucoup de monde, ça énerve depuis très longtemps Epic Games, donc c'est pas la première fois, hein, donc ils étaient en guerre, il y avait déjà eu des trucs au mois d'avril, au mois de mai, tout ça avant. C'est pas les seuls, hein, derrière, ils ont reçu le soutien de Spotify et autres, parce qu'ils en ont tous marre que Apple prélève automatiquement 30% de leur gains sur les achats et sur le store. Et donc ils ont mis en place un moyen d'achat alternatif, donc hier matin ou avant-hier, je sais pas, il n'y a pas très longtemps, qui permettait d'acheter ces fameux V-Bucks, 20 ou 30% moins cher. En gros, il faisait un discount de la valeur de ce qu'il donnait à Apple via le système classique Apple. Apple a vu ça arriver très vite, donc ils ont retiré du store, donc là on en est à l'état où ils ont retiré du store Fortnite. Epic Games a répliqué, ils ont fait une vidéo assez rigolote, ça reprend la vidéo qu'avait fait Apple dans les années 80 quand ils avaient lancé un des premiers Apple, ils avaient fait une vidéo où il y avait une jeune femme qui arrivait, qui cassait un écran et puis ils révélaient le nouveau ordinateur Apple machin etc. Ils ont fait la même chose avec Fortnite, donc pour reprendre les mêmes trucs en disant bon bah on en a marre du monopole, on en a marre, parce qu'à l'époque c'était justement ce qu'Apple avait fait face à Microsoft, ils avaient fait cette vidéo pour montrer le monopole à l'époque, tout était Microsoft machin etc. Donc ils disaient ah on arrive, on va tout casser, on va casser le monopole. Bon bah voilà, donc ils jouent l'année, ils disent, et donc sur la vidéo c'est bah on refait pas 1984 je crois, quelque chose comme ça, ou 80. Et voilà. Et donc on est en pleine guerre. Donc là aujourd'hui, là où on vous parle, on est en pleine guerre entre Epic Games, Apple, mais Epic Games donc qui est soutenu par tous ceux qui ont des applis dans les stores parce qu'ils en ont tous marre de verser 30%. Et donc on en revient à ce problème de monopole et des stores quand ils sont fermés. Et ben voilà. Apple fait ce qu'il veut. Et Apple aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont évalués en bourse. Enfin, ils se font de l'argent, ça tombe à flot, et derrière, bon, bah, les ceux qui en vivent, bah, eux, ils versent 30% à chaque fois que quelque chose est pensé sur la plateforme. Ça fait trop, voilà. C'est la révolte et la guerre. Donc là, c'est Epic Games. Donc si vous avez des enfants qui utilisent Fortnite sur plateforme Apple, vous risquez d'en entendre parler. Pour l'instant, je crois que ça marche encore, mais je pense qu'il va vite y avoir des problèmes. Voilà.
Mais ça fait trop parce que Fortnite, ils font pas d'argent, c'est ça?
Fortnite, le problème, c'est ça, c'est que le seul moyen de vivre, c'est ça, c'est les in-app, c'est, parce que là, l'appli est gratuite. Enfin,
Fortnite, c'est la poule aux œufs d'or, quoi.
C'est, voilà. Donc,
ils font plein d'argent, quand même, aujourd'hui.
Ah oui.
Ils veulent en faire un peu plus, quoi.
C'est ça. Donc, voilà. Donc, bon, la guéguerre est relancée, on verra ce que ça donne, on en parlera peut-être au prochain épisode.
Il y a un autre point plus intéressant encore qui est... Alors attends, il y en a un que je me rappelle plus, mais il y a xCloud de Microsoft qui est du gaming en streaming, qui, pareil, ont annoncé qu'ils ne pourraient pas être sur iOS à cause des règles de l'App Store qui interdisent, en gros, d'avoir ce qui est considéré comme un App Store dans l'App Store.
Oui.
Voilà. Et du coup, c'est... voilà, il y a plusieurs fronts en plus du, de la, l'interview de la Chambre des représentants. Donc, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, sur la vidéo YouTube, là, il y a le live chat qui, genre, il y a...
Ah, il n'arrête pas.
20 messages par seconde, quoi.
C'est ça. Ah oui, non, c'est infernal. Là, je vous ai mis le lien de la vidéo. Enfin, ça n'arrête pas. Mais voilà, mais il y a pas mal de soucis. Il y a eu pas mal de soucis ces derniers mois, pareil, sur des applis qui ont été retirées du store pour des raisons diverses et variées, mais pas du tout raisonnablement justifiées. Enfin, voilà. Donc là, en ce moment, ça brûle quand même un peu dans l'App Store chez Apple. Donc la révolte gronde.
Ouais. Alors, on va pas vous parler de TikTok parce qu'on a, on est un peu en retard, mais en gros, Trump a fait un ban de TikTok avec effet
il prévoit
suspensif, un... voilà.
En septembre.
Extrêmement vague. C'est clairement une manœuvre de pouvoir politique entre la Chine et les États-Unis plus que de choix techniques. Mais voilà, et en plus, il y avait très peu d'articles substantés, on va dire.
Ouais. J'en ai pas trouvé beaucoup, ça.
Donc, on va passer aux outils de l'épisode. Et il y en a un qui est rigolo, qui permet de faire du... Vas-y, tu veux dire ?
Non, enfin, c'est un site web qui permet de... Enfin, il y en a plein, vous trouvez des sites web pour faire, vous savez, des encodages, décodages de texte, bah, 64 et autres, les URL encoding, blablabla. Donc, il y en a plein. Et là, c'est Guillaume qui nous en a trouvé un qui est un peu rigolo et qui permet de faire des choses un peu plus avancées. Alors, je ne me rappelle plus les fonctionnalités, mais on peut... je n'ai pas retesté récemment depuis qu'il a publié le V1.
Bah, il y en a plein, on peut faire du Morse code, faire de l'Enigma machine, le chiffrage de César, le chiffrage de Visionaire, etc. Donc il y en a plein, donc c'est rigolo. Il y a même un chiffrage qui s'appelle le chiffrage nihiliste que je ne connaissais pas. Enfin, il y en a plein que je ne connais pas d'ailleurs. Donc c'est rigolo, on peut faire un peu plus que juste conversion en base 64. Donc c'est rigolo. Le truc dommage, c'est qu'en fait, quand on choisit le Enigma Machine, par exemple, ça serait cool d'avoir un petit lien vers une page Wikipédia qui explique le truc, parce que du coup, on est curieux, on se dit, c'est quoi le...
Ouais, chercher soi-même, ouais.
Le nihilist cipher, par exemple.
C'est ça.
Donc, on est obligé d'aller faire une recherche. Voilà, donc ça, c'est rigolo. Et puis, ça fait aussi la conversion en base 64, donc c'est aussi utile. Et c'est...
Les trucs classiques, on va dire.
Voilà, rubrique de débutant.
Oui, je savais pas trop le mettre, ce lien-là.
Ouais.
Le Bitoduc. Alors, que veut dire le Bitoduc ? Attends, parce que j'ai oublié, faut que je rouvre le site. Bitoduc, nom masculin, ensemble de conducteurs d'interconnexion de plusieurs organes numériques d'un ordinateur. Synonyme Infoduc. Voilà. Et en fait, c'est un site web qui référence les versions françaises de tout un tas de mots que l'on utilise généralement en anglais tout le temps. Voilà, donc par exemple, backdoor, porte dérobée, ça c'est simple. Backport, rétroportage, il y en a plein, mais alors, je sais plus, j'en ai trouvé certains, mais alors, favicone, favorimage, bon voilà. Donc c'est tous les mots français, si vous voulez, donc on nous critique souvent, on nous dit votre français, vous utilisez plein d'anglicismes dans les cascodeurs, on le sait très bien. On n'a pas encore appris par cœur tout le bitoduc, mais on va s'y atteler. Et voilà, donc c'est intéressant de voir tous ces mots dans leur version française. Et voilà.
Ouais. Alors du coup, j'ai fait la recherche pour vous. Vous n'aurez pas à le faire. Le cipher, le chiffrage nihiliste, donc ça vient d'un algorithme d'encryption de chiffrage symétrique qui a été inventé et utilisé par les nihilistes russes dans les années 1880 pour organiser des actes de terrorisme contre le tsar. Voilà, et qui a été utilisé après par le First Chief Directorate, qui est, si je ne me trompe pas, qui est en gros l'origine du KGB. Voilà, donc rien ne se perd. Et c'est un chiffrage, il y a une clé de chiffrage, et c'est un chiffrage symétrique, donc après, si la clé est assez grosse, il n'y a pas de risque de... Est-ce qu'il n'y a pas de risque de cassage? Si, peut-être avec les... avec la fréquence. Mais bon, bref, il faut voir. Après, ces années 1880, on n'était pas encore super avancé en chiffrologie. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais on va dire qu'on dit ça comme ça. Voilà, c'était mon petit résumé historique, à peu près correctement historique, on va dire. Voilà, et effectivement, Bitoduc, on va faire une lettre par jour. Ça peut être rigolo, tu vois, on prend un exemple. Par exemple, le truc que je ne connaissais pas, c'est le ampersand. Ça s'appelle l'esperluette.
L'esperluette, oui, ça, voilà. Alors, j'oublie tout le temps. Mais je savais, mais alors, complètement oublié, ouais, l'esperluette.
Et moi, je ne savais pas. Tu vois, le binding, reliage. Oui. C'est évident, mais on ne l'utilise pas. Non. On l'utilise pas. Le bundle, le colis, ça va être rigolo.
un petit colis.
Ouais. Voilà, on va pas vous parler des conférences parce que l'on les a pas collectées.
C'est vite fait. En tout cas, c'est vite fait puisqu'il en reste presque plus. Elles sont toutes virtuelles pour celles qui restent. Ouais, mais... les physiques, de toute façon, à part le Jog Summer Camp en septembre, le Volt Camp en octobre, je crois que c'est à peu près tout qui reste. De mémoire. Voilà, donc effectivement, les conférences. Enfin, dites-nous via la mailing list, etc. Si vous voulez peut-être qu'on vous fasse les news des confs virtuels, je pense que vous pouvez les trouver. Il y a le site d'Aurélie Vache aussi qui les a dessus. Mais bon, il y a moins d'actualité, on va dire. C'est un peu différent en ce moment.
Ouais. Bon, on va vous laisser. N'oubliez pas patreon.com/lescascodeurs si vous avez un petit peu d'argent et que vous voulez nous aider. Et puis, si vous voulez parler de quelque chose, c'est gratuit. Vous faites un crowdcast. Vous allez sur lescascodeurs.com/crowdcast. CROWCAST. Je ne sais pas ce que j'ai mis comme résumé. Ouais, ça marche. C'est AST. Bon. Et puis, ça vous explique comment faire un petit enregistrement MP3 avec votre ordinateur et nous l'envoyer. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, à la prochaine fois pour un nouvel épisode.
À bientôt tout le monde.
Ciao.
Ciao, ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.